Ce podcast de Comic City est sponsorisé par Pulps Bordeaux, votre choix de comics, statuettes, toys et produits dérivés en Gironde. Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h et le lundi de 14h à 19h, toute l'équipe vous attend 56 rue du Loup ou sur la page Facebook du magasin. Et n'hésitez pas à les contacter pour toute solution VPC. Pulps Bordeaux, le comic shop qu'il vous faut. Bonsoir à tous et bienvenue sur ce 306e Comics Weekly qu'on va rebaptiser le Comics Weekly de l'enfer dès le début, étant donné que départ raté, en retard, boulot qui termine plus tard que prévu, bref, c'est la folie. Nous ne sommes que deux ce soir, Bruno et moi, et nous parlerons bien sûr de DC avec quelques-unes des sorties de la semaine, mais aussi d'Indé avec Captain Kidd et Rome de nouvelles séries, et puis enfin de Marvel avec, comme d'habitude, du Civil War en veux-tu en voilà, mais aussi du Captain America. Je suis Steve. Et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir, comme je l'annonçais durant l'intro, qui a été plus courte que d'habitude, alors que d'habitude j'ai jamais le temps de finir, et là c'était trop long, Bruno !
Oui, bonsoir pour la libre antenne de 22h30 sur Comic City.
Bruno, voilà. L'homme qui aime quand c'est long.
C'est ça. Alors déjà, je m'excuse, j'ai marqué un message sur Facebook en indiquant 22h15, et moi comme un boulet, dans ma tête c'était 22h30, comme quoi. Donc effectivement, un petit retard qui m'incombe, du coup.
Oui, enfin, tu sais, j'étais en retard aussi, j'ai fini plus tard le travail que prévu, et donc forcément j'arrive plus tard à la maison. Donc compliqué quoi, c'est enchaîné.
Je vois qu'il y a du monde quand même, donc c'est bien, des couches tard.
C'est que le message était passé, Bruno.
Exactement.
C'est message que tu as mis à ma place, puisque bien sûr, avant de partir embaucher ce matin, j'ai oublié de le remettre. D'abord, je tiens à vous adresser toutes mes plus sincères excuses quant au problème de son qu'il y a eu sur le dernier Comics Weekly, qui est sorti extrêmement en retard. Je me suis vraiment posé la question de savoir si j'allais le sortir ou pas. Pour avoir essayé de faire un maximum de choses en post-prod, c'est juste impossible. Je n'avais pas d'enregistrement de secours, donc là, du coup, ce soir, j'en ai fait tourner un au cas où. Je pense que mon PC a surchauffé, tout simplement, et que ça a complètement fait merder l'enregistrement, puisque l'enregistrement du lendemain, celui du Comic City, n'était pas du tout impacté par ce même problème. Le problème était que ma voix était décalée d'une seconde par rapport à celle de Bruno et de Kiwi. Ce qui fait que c'est pas dérangeant quand je les annonce au départ, quand je dis « Bonsoir Bruno », il y a une seconde de blanc, et que Bruno dit « Bonsoir tout le monde ». Mais quand il dit « Bonsoir tout le monde » et que j'enchaîne par-dessus lui en disant « Salut Kiwi !» Ça devient très problématique dès qu'il y a un débat. Effectivement, il y a eu plusieurs débats au long de cette émission. Je l'ai publié quand même pour que vous puissiez essayer d'avoir un maximum de reviews, parce qu'on a quand même fait pas mal de reviews en solo, ce qui permet d'avoir des avis. Cependant, je tiens sincèrement à m'excuser quant à la qualité de cette émission, qui n'est pas du tout le reflet de celle que l'on a d'habitude. Et j'ai malheureusement aucun autre moyen de vous la proposer. Et avant qu'on m'en parle en commentaire, les deux pistes sont, que soit la mienne, et celle de Bruno et de Kiwi sont liées sur la même piste. Du coup, je ne peux pas décaler manuellement. Ça aurait été trop facile, sinon.
Bon, c'est normal, maintenant, on sait que tu habites dans une autre dimension temporelle.
Ah ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé, là. Ça a complètement merdé. Et du coup, j'avais très très peur que le Comic City en soit impacté, et pas du tout. Donc, je pense sincèrement que mon PC a eu un coup de surchauffe jeudi. Effectivement, il faisait relativement chaud jeudi dernier. Peut-être que c'est ça qui a provoqué ce décalage. Mon PC a complètement pété les plombs, a ramé. Là, par sécurité, je l'ai éteint toute la journée. Pendant que j'étais au boulot, d'habitude, il reste toujours constamment allumé. Je l'ai éteint pour qu'il soit le plus froid possible quand je rentre, de manière à éviter tous les problèmes. J'espère que ça ira. De toute façon, je me fais un enregistrement de secours et du coup, j'aurai deux versions au cas où. Bref, c'est la merde. C'est la merde. Le site déconne totalement en plus en ce moment.
Oui.
Voilà, disons qu'il faut garder la motivation, quoi. Faut la garder parce que il y a des jours où on n'a pas envie. Hein.
Il y a Flo qui s'est arraché les cheveux aujourd'hui sur le site et a priori, ça, c'est la galère. Mais bon, on va y arriver.
rajoutons à ça divers problèmes et variés que l'on a tous dans la vie, qui ajoutent au fait que, putain, il faut vraiment s'arracher pour avoir envie de faire ces émissions.
Non, mais c'était exprès pour la semaine de ton anniversaire, Steve. Voilà. Il fallait qu'il y ait plein de merde et tout. C'est ton cadeau.
C'est ça. Ouais. Bon. déjà qu'avec le boulot, j'ai à peine le temps de m'occuper du site. C'est vraiment la course. Ça devient tendax. Ah si, j'ai du temps entre, je sais pas, 2h et 4h du matin, quoi.
On va tous te faire des bisous, là, en mélangeant nos esprits pour...
Mélangez vos salives.
Un joyeux anniversaire.
Mélangez vos salives et vos langues. Mélangez vos salives et crachez-moi la gueule. Voilà, comment... Tu vois, t'essayes de faire un truc beau et poétique, et moi, je réunis tout, quoi.
Ouais, je vois ça.
En tout cas, merci, Bruno. Bernie, c'était très gentil d'y avoir pensé.
Voilà, et pas de soucis.
Nous allons démarrer avec un mini WhatsApp. On va y aller à la fraîche ce soir parce qu'on a assez peu de lectures. D'autant plus que voilà, avec le travail, ça a été compliqué d'arriver à avoir des lectures. Mais on en a quand même un petit peu, donc on va prendre un petit peu le temps. On fera peut-être pas 3 heures ce soir, je pense pas. Franchement, on va être balèze hein, si on fait 3 heures.
Je pense.
On va être balèze. Un petit WhatsApp. Je te laisse commencer, Bruno, pour le WhatsApp.
Ouais, alors moi, j'étais en vacances ce week-end, donc pas très geek. Hein. Je me suis complètement éloigné des tablettes, des téléphones pendant 5 jours. C'était pile les 5 jours où il y avait la San Diego Comic-Con. Donc voilà, je suis revenu mardi soir et je me suis pris tout dans la gueule, toutes les news.
Ça s'appelle un boucaquet, donc.
C'est ça. J'étais dans le Pays Basque. On a passé de super journées. Il faisait beau. On a visité plein de trucs avec Audrey et c'était terrible. Donc ça faisait du bien de prendre l'air, de se déconnecter.
Ferme ta gueule. Il y en a qui ont pas pris de vacances depuis 3 ans. Hein? C'est bon maintenant. T'arrêtes. Hein.
Et voilà. Et donc après de retour côté geek, après c'est tout le monde en parle, voilà, même moi j'ai testé Pokémon Go. Voilà, ça va peut-être faire fuir certaines personnes sur le chat, mais voilà, avec Audrey on a téléchargé l'application à notre tour de vacances. Et voilà, c'est vrai que c'est assez amusant de voir le phénomène que c'est devenu sur Bordeaux, dans le centre-ville, on voit énormément de gens y jouer. Il y a des petits regards complices et bizarres qui se font entre joueurs de ce jeu. Et voilà, tranquillement. Quand il y a des petites pauses ou sur le chemin, sur le trajet, je récupère des Pokémon. Voilà, c'est la folie. Alors, donc non, vraiment très sympa, comme jeu.
Pour tous ceux qui découvriraient cette émission, je dis ferme ta gueule à Bono, mais c'est totalement amical et pour rire. Hein, ne croyez pas qu'on s'insulte allègrement
si,
et qu'on s'engueule
normal,
durant l'émission comme ça.
C'est normal.
Voilà. C'est juste que j'ai pas eu de vacances depuis 3 ans, ça me fait un peu chier, quoi. Voilà, c'est tout. Ça sent là que c'est dur.
Ça se sent un petit peu.
Et je parle pas de la bite, évidemment.
Non, quand même pas. Sinon, côté geekery, les dernières séries télé, Stranger Things, on en a déjà parlé. Oui, si je continue à regarder, alors c'est pas top, hein, c'est sympathique, mais c'est Scream, la série TV Scream, qui est...
Deuxième saison petit...
Ouais, deuxième saison, c'est... C'est plaisant à suivre, voilà, il y a un petit épisode par semaine, les acteurs sont marrants. Après, c'est vraiment plein de clichés, c'est pas toujours très bien joué, mais voilà, c'est le petit truc en mangeant, sympathique, voilà. Voilà.
Magic Todd qui nous dit Bruno à 130 sur l'autoroute, lâche le volant pour cacher du Pokémon.
Ouais, exactement. Non, voilà, soyez prudents, ce genre de jeu, effectivement.
Soyez prudents, faites comme les Américains, jouez près des falaises.
Ça peut être dangereux. Moi, c'est surtout, en fait, auprès des enfants que j'ai peur que ce jeu puisse avoir des répercussions pas top.
Qu'ils aillent se balader dans des coins mal famés.
Oui, ou sur le coup de minuit, c'est je vais chercher un. Il y a un Evoli à 3 km. Bon, ça me paraît bizarre. Mais voilà, mais sinon, c'est vraiment super bien fait et le jeu n'en est qu'à 10% de son de ce qui est prévu de faire avec. Et,
ouais, c'est bien le problème.
Ils ont de quoi faire pour développer leur appli.
Alors je sais pas chez toi, mais personnellement, j'ai quand même testé l'application. J'aime bien le principe, j'aime pas la façon dont ça se joue, perso, mais bon, après, ça, c'est les goûts de chacun. Je t'avoue que le Pokédex est complètement buggé chez moi.
Ouais, mais alors, j'ai pas eu trop de bugs. Moi, c'est plus pour me connecter que j'ai souvent des bugs.
Ah, mais le truc est complètement buggé, c'est-à-dire que le Pokédex, je ne peux pas y accéder, quoi. Ça me fait une page vide, t'essayes de changer de truc, ça te fait des pages vides. C'est juste. Mais c'est développé avec le cul, quoi. Alors, ouais. C'est bien beau de vouloir faire un truc mondial, mais quand même, les gars, développez un minimum, quoi. Sortez pas des fonctionnalités à moitié plantées. Soyez sympas.
Après, ça dépend peut-être des téléphones, ça dépend peut-être aussi de la surcharge des serveurs. vu le succès du jeu.
Fait, moi, c'est depuis qu'il est installé que le Pokédex est foireux, quoi. Donc,
ouais. Ah là là, enfin, après, je sais pas si sur Choré, il y a beaucoup de.
Oui,
Pokéstop.
Oui, j'en ai un qui a deux pas de chez moi à la piscine juste derrière moi. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je promène le chien, je passe au Pokéstop. Quoi.
Tu récupères des Pokéballs ?
Ouais, ben, comme il m'en faut 10 pour en capturer un Pokémon, ouais, ça vaut mieux.
Oh, mais t'es pas très doué.
Non, pas trop.
Avec
non.
Tes doigts.
Non, pas trop. Bah, mec. Non, je vais m'arrêter là. Voilà, vous avez tous compris ce que j'ai tenté de dire, mais
ouais,
je vais m'arrêter.
Je préfère ne pas comprendre.
Il me faut, je sais pas, j'arrive jamais à capturer du premier coup. Hein. Quand je le capture en deux boules, je suis content.
Ouais, avec deux boules, ouais, c'est toujours plus pratique.
En général, c'est plutôt une orgie de boules. Quoi. Mais mon Dieu, mais que se passe-t-il dans cette émission?
Bon, et toi, ton WhatsApp?
Eh bien, je pars un WhatsApp, comme je t'avais prévu, comme je te l'ai dit juste avant ce début de cette émission, un WhatsApp qui va te rendre jaloux.
Ah bon?
Car j'ai bien vu dans ta liste, oui, parce que moi je suis un gros stalker, comme j'étais en ami sur Steam, j'ai bien vu que le dernier jeu du studio Paradox t'intéressait beaucoup, Stellaris.
Ah oui, tout à fait. J'ai un pote qui m'en a beaucoup parlé de ce jeu et c'est vrai que ça m'intriguait.
Bah, j'ai fait le bourrin, je l'ai bien tipiaqué comme un gros sale. Parce que voilà, j'avais envie de le tester juste pour voir ce que c'était. Parce que j'ai vu 2-3 let's play sur YouTube, ça m'avait l'air passionnant. Et je confirme, mes 3 heures de nuit cette nuit. Bon, voilà, j'ai voulu tester le jeu et c'est comme d'habitude hein, dans ce genre de jeu, tu ne testes pas 10 minutes.
Ouais, t'étais parti pour 3-4 heures. Quoi.
Tu fais, oh, allez, vas-y, je joue une petite demi-heure, je regarde un début de partie, comment ça se passe. Ah, merde, j'ai passé 3 heures dessus. Ah, merde. Bon. Non, franchement, le jeu est excellent. Voilà. Vraiment très, très bon. Ça fait un petit moment que j'avais envie de me refaire un bon petit jeu de stratégie. Et voilà, j'ai testé celui-ci. Donc, Bruno, je t'encourage à te le procurer parce qu'il est vraiment très, très bon.
Ouais, moi, je pense. Tu vas attendre une Steam Sale.
Je pense que je vais attendre soit une promo, soit d'avoir ma paye, l'un ou l'autre, pour me le procurer en version légale. Parce qu'en plus, il est complètement modable et ça, c'est vraiment cool.
Après, là, j'ai trop de jeux en cours. Là, maintenant,
je dis, c'est un 4X en temps réel. Oui, c'est ça. Bon, sachant que tu peux quand même mettre pause. Donc, tu peux quand même poser pour mettre tes ordres. Mais. Donc ça se passe dans l'espace et vous allez conquérir joyeusement la galaxie avec la possibilité de se faire un grand système qui possède 1000 systèmes solaires. Mais oui.
Oui. Mais il y a de quoi faire.
Mais oui. Voilà. Voilà, que si on laisse
moi, j'ai plus
avec
le temps de jouer, j'ai trop de jeux. Donc là, Stellaris, c'est vrai que ça m'intéresse, mais j'ai trop de trucs à faire. Je suis toujours sur Witcher, il y a plein de soldes là, récemment, donc j'ai acheté des jeux sur PS4, des trucs. Après, j'ai des trucs gratuits avec le PS Plus. Enfin, là, c'est vraiment, j'ai trop de jeux et pas de temps. Et c'est super.
Bah, c'est ça,
ma
bibliothèque Steam est remplie aussi de plus de 500 jeux. Laisse tomber. Quoi.
J'ai testé Fury tout à l'heure, qui était un jeu offert sur PS Plus. Ça a l'air d'être une tuerie. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Tu les lances et. Enfin bon, voilà, on va pas se plaindre hein, d'avoir trop de jeux. Ça, si je pensais pouvoir dire ça un jour quand j'avais
bien sûr,
8 ans,
mais jamais moi aussi.
Ma Master System et que voilà, j'étais tellement content quand j'avais un jeu que je finissais en 2 heures de jeu et qui me faisait après 6 mois. Voilà, maintenant c'est plus la même chose.
Et Vlopinos qui me dit il y a trop de bons jeux cette année, on est gâté. Civ 6 arrive à la rentrée en plus. Tellement longtemps je me suis pas mis sur un Civilization. Putain, il faudrait que je m'y remette. Mais surtout, il y a mon chouchou, il y a No Man's Sky qui arrive bientôt. Mon Dieu.
Ah, alors lui, c'est.
Mon Dieu, je me caresse.
Il vend du rêve, mais alors j'ai peur du gros soufflet qui.
Mais non, c'est un jeu d'exploration dans l'espace, c'est forcément bien. Forcément bien.
Ouais.
Mais le problème, c'est que j'ai peur que mon PC ne puisse pas tenir la charge. Il n'est pas annoncé sur Xbox One. Donc, je suis bien deg. Je suis bien deg.
Bon, je te raconterai mes sorties dans l'espace quand il sera offert sur le PS Plus, peut-être le mois prochain. Non, je rigole. Il sera pas
oh
offert.
Putain, s'il est offert. Franchement, je mords les couilles, je crois.
Non, il sera pas offert. Sera
je
pas
trouverai
offert.
Un moyen de m'assouplir pour me mordre les couilles. Eh bien, je pense que nous allons démarrer maintenant cette semaine de review, cette semaine de l'amour avec
ah,
du
oui.
décès. Et amour, on va en parler puisque nous allons parler de Wonder Woman numéro 3. Veux-tu parce que du coup en fait
moi j'ai pas lu.
Ah d'accord, donc oui c'est toi.
Pardon.
Moi. OK.
On a qu'une seule review commune. C'est avec un capitaine et c'est avec l'Amérique.
Donc, ok. Voilà. Bon, bah comme ça, oui, parce que oui, on a fait le conducteur très vite. Excusez-nous. C'est un petit peu déboîté cette émission. Bref, ce Captain America, n'importe quoi. Ce Wonder Woman numéro 3, écrit bien sûr par Greg Rucka, avec des dessins de Liam Sharp et une colorisation de Laura Martin. Et mon Dieu, que c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup autant visuellement que au niveau de la colorisation qui, je trouve, est somptueuse. Même si on a quelques petits, même beaucoup de fonds vides et beaucoup de ciel et d'effets de fumée, etc., qui font un peu cache-misère, et ben moi, franchement, ça me séduit graphiquement. Même si je n'aime toujours pas le nouveau design de cette Cheetah, beaucoup plus animal. Ça me, voilà, je préférais l'ancienne, mais bon, peu importe, de toute façon, le personnage est comme ça, point. C'est tout. Reprenons donc l'histoire. Alors, je rappelle hein, le concept de Wonder Woman, série qui, comme beaucoup de séries chez DC, sort deux fois par mois, donc bimensuel, avec les numéros pairs qui sont l'histoire inscrite dans le présent, qui s'appelle un arc qui s'appelle The Lies, et les numéros. Oui, c'est ça, les numéros pairs. J'avais dit les numéros pairs ou impairs, j'ai un doute maintenant. Bon, les numéros impairs, donc 1, 3, 5, etc. C'est l'arc voilà. De Lies, l'arc qui est dans le présent. Et les numéros pairs, c'est l'arc Year One, dessiné par Nicolas Scott, qui va raconter une nouvelle façon de raconter les origines de Wonder Woman, un peu modernisé, tout ça. Et ces deux histoires vont se rejoindre, évidemment. Donc là, de retour dans le présent, on rappelle, Wonder Woman est dans un pays d'Afrique, dans la région du Bunda. Je ne sais pas si elle existe. Je m'en branle. Je vais être honnête, j'en ai rien à foutre. On sait que c'est l'Afrique, c'est tout ce qui compte. Elle a retrouvé Cheetah car elle s'est rendue compte que toute sa vie était un mensonge. Et elle ne sait plus où est Temiscira, sa cité où elle a grandi, cette ville où toutes les autres Amazones sont. Elle a perdu l'accès, elle ne sait plus où c'est. Et elle a besoin de Cheetah pour l'aider à y retourner et faire un petit peu le point sur ce qui est vrai, ce qui est faux dans sa tête. Plusieurs continuités se mélangent. Un espèce d'habile jeu entre les différentes continuités de l'univers DC qui se mélange dans la tête de Wonder Woman et qui du coup fait qu'elle ne sait plus si elle...
Elle a besoin d'un Cheetah code.
Je valide. Celle-ci, je valide, sponsorisée par le Konami Code, évidemment.
Ouais, tout à fait. Oh, baba.
Gauche-droite, etc. Vous connaissez la manie. Pendant ce temps, notre ami... Monsieur Steve Trevor est, comme par hasard, dans la même région. Mais c'est magnifique. Moi, franchement, je trouve que le hasard fait tellement bien les choses. C'était vraiment le gros reproche que j'avais à faire sur le premier épisode. C'est que, comme par hasard, il est en mission Spec Ops au même endroit que là où est Wonder Woman. Donc, on attend juste qu'une chose, qu'ils retombent l'un sur l'autre à nouveau. Hein, évidemment. Et tous deux, donc Wonder Woman accompagné de Cheetah, mais aussi Steve Trevor et son escouade de Black Ops, je fais des missions qu'il ne faut pas le dire au gouvernement, mais que c'est payé par le gouvernement, mais que personne ne doit le savoir, enquête sur un espèce de dieu animal qui fait régner une espèce de terreur, qui réduit les gens en esclavage, qui enlève les gens dans les villages, qui rend malade les autres. Bref, on sent que la rencontre va être imminente. Ce numéro est très bon. Franchement, une bonne confrontation entre Wonder Woman et Cheetah. Effectivement, c'est un peu lent. Mais voilà, c'est bien écrit, donc c'est pas un lent qui m'a dérangé. Les choses se mettent en place, sachant que oui, il y a ce problème de deux histoires qui peut rebuter certains. Une fois c'est une histoire, une fois c'est l'autre. Mais si vous accrochez pas à une histoire, vous avez un mensuel, point. Je vois pas où est le problème.
Oui, moi je trouve l'idée séduisante. Après, effectivement, il y a de grandes chances qu'au bout d'un moment, ça finisse par se répondre, les deux histoires. Voilà, ça fait partie des bons titres de ce DC Universe Rebirth. Donc je vais pas me plaindre d'avoir une double dose de Wonder Woman, surtout avec de très bons dessinateurs comme Liam Sharp. C'est vrai que j'ai feuilleté là pendant que tu parlais le numéro, c'est vraiment très beau. Et Nicolas Scott aussi qui fait des très belles planches.
Bastien 64 nous dit la colo est bonne mais les dessins sont très inégaux. C'est vrai que sur certains visages, de temps en temps, on sent des petites irrégularités, pardon. Malgré tout, moi je me suis vraiment laissé emporter. La colorisation fait énormément de choses dans ce comic et permet de rendre l'aspect un petit peu onirique et faire voyager beaucoup quoi. La colorisation fait passer pas mal de défauts. Là je trouve c'est d'autant plus marqué sur cet épisode là que sur d'autres où la colorisation est plus ou moins secondaire. là, vraiment, c'est ce qui m'a permis de rentrer dedans, quoi. En tout cas, vraiment, j'ai trouvé ce numéro super sympa. Moi, ça m'a beaucoup plu. Pour moi, c'est un gros bail et j'attends de voir où il va nous emmener. J'attends. On commence à avoir des pistes, hein, sur comment ça va se répondre un petit peu. Mais voilà, je me laisse porter par l'histoire. J'avoue que le nom de Greg Rucka n'est pas étranger au fait aussi qu'on se laisse porter et qu'on y va en confiance. Après, il n'est pas à l'abri de nous faire de la merde. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Il peut se foirer. Malgré tout, ça reste quand même une valeur sûre et on sera beaucoup plus enclin à lui faire confiance qu'à d'autres, d'autres scénaristes. Voilà. Je ne vais pas citer de nom, vous les connaissez. En tout cas, c'est un bail pour moi, ce Wonder Woman numéro 3. On passe à toi, Bruno. Tu nous parles d'une nouvelle série DC, Red Hood.
Ben oui, justement, parlons d'un scénariste qui pourrait peut-être nous décevoir. Je parle de Scott Lobdell, puisque Scott Lobdell, voilà, bonhomme à l'an, il reste voilà, le scénariste attitré de Red Hood.
Scott Lobdell Forever, moi je me suis fait tatouer son nom sur la bite. Hein.
C'est lui qui avait relancé Red Hood and the Outlaws lors des New 52. Et c'est lui qui reprend à nouveau les choses en main pour la version Rebirth. Alors ce numéro 1, c'est un numéro Rebirth, donc le numéro introductif avant le début vraiment de la série Red Hood and the Outlaws. Et donc c'est dessiné par Dexter Soy. Les dessins sont plutôt bons. C'est assez dynamique. J'ai trouvé ça très bien graphiquement. Par contre, au niveau de l'histoire, j'ai pas été vraiment très surpris et surtout j'étais un petit peu déçu sur quelque chose. Vas-y, dis-moi.
Juste une petite question concernant Dexter Soy. Est-ce que c'est le Dexter Soy du début de Captain Marvel quand il est arrivé avec son style complètement en peinture, ou est-ce que c'est vraiment le nouveau style un peu plus rapide qu'il a maintenant?
C'est un style plus rapide. C'est son style plus rapide.
Ah, c'est dommage. C'est dommage.
Le style peinture qu'il a eu sur Captain Marvel, là, qui nous avait pas mal marqué à l'époque, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut-être sur un rythme plus court, il aura peut-être un peu de mal. Mais je crois pas que ce soit lui qui dessine sur le titre après ce numéro Rebirth. En tout cas, voilà, la patte graphique est quand même sympathique et ça reste assez dynamique. Par contre, voilà, ma déception pour ce titre, c'est que c'est un 100% Red Hood. C'est-à-dire que ça a beau être le prologue à la série Red Hood and the Outlaws, ça va être juste un moyen de nous replacer qui est Jason Todd, comment il est devenu Robin, et de mettre ça en parallèle avec le début d'une intrigue où voilà, ça commence avec une scène choc, c'est du Scott Lobdell, on voit Red Robin qui assassine froidement le maire de Gotham sous les yeux de Batman. Voilà. Après, hop, on nous explique ce qui s'est passé. Bon, ça se lit bien, mais il y a vraiment très peu d'originalité, je trouve. À nous refaire encore le coup de nous montrer Jason Todd qui est en train de cambrioler la Batmobile, de prendre les pneus de la Batmobile, ou nous remontrer la scène où on voit le Joker le tuer. On l'a vu 50 milliards de fois. Alors ça a beau être un numéro justement qui est là pour introduire la série, on aurait pu s'en passer. J'aurais préféré qu'il profite de ce numéro pour introduire l'équipe, puisqu'on sait qu'il va faire équipe avec Artemis et avec un nouveau Bizarro. Mais ça, vraiment, ces deux personnages, on les voit pas du tout dans ce numéro. Donc, je suis assez mitigé sur le numéro. Je vais lui mettre juste un check-it. Je trouve, par exemple, que le Red Hood and the Outlaws numéro 1 des New 52 m'avait beaucoup plus plu. Voilà. En plus, il y avait du Rocafort. Moi, j'aime bien Rocafort au dessin. Et c'était, il y avait plus de choses à manger, quoi. Voilà. Comme
bah oui, avec Rocafort. Rocafort, ouais, manger, voilà, bravo Bruno.
Avec une petite tranche de pain et tout. Ouais.
C'est ça.
Voilà. Non, non. Mais donc, mitigé, un peu comme beaucoup de numéros tagués Rebirth, parfois, qui m'ont déçu. C'est peut-être un peu trop introductif. Et voilà. Mais ça m'a pas dégoûté au point de ne pas tester le numéro 1. J'irai quand même tester le numéro 1. Donc, un check-it pour ce Red Hood and the Outlaws Rebirth.
Et on va continuer avec Nightwing numéro 1, donc vrai numéro 1 cette fois-ci. Rebirth était sorti la semaine dernière ou il y a deux semaines, j'ai un doute.
Il y a deux semaines. Mais ça passe vite. Hein.
Oui, ça passe tellement vite là ces derniers jours que je sais plus quel jour on est.
Et puis le double shipping à force.
Attends, on est quoi? On est le 18 octobre.
C'est ça. Merde.
Ça passe
trop vite.
Putain, oui, depuis le début de l'émission, tout ça. Waouh. C'est vrai que j'ai même pas annoncé le jour qu'on était, d'habitude je le fais, mais c'est trop tard. Voilà, vous ne saurez pas. Comme ça, je peux me permettre de poster le podcast en retard. Ça se verra moins. Donc le Nightwing numéro 1 avec Tim Seeley au scénario et des dessins de Javier Fernandez, une colorisation de Chris Sotomayor, pardon, avec un Nightwing dans sa nouvelle formule, pardon, qui a récupéré son identité secrète de Dick Grayson et qui a récupéré son costume de Nightwing, un costume bleu. Parce que le bleu, c'était la meilleure époque de Nightwing, selon Jeff Jones. Donc on lui a remis ça, en espérant que ça se vende mieux que quand il était en rouge où ça se vendait moins. C'est un choix logique, après tout. C'est un choix logique. Comme pour Aquaman, on lui a remis sa barbe, parce que bordel, quand il avait la barbe, ça se vendait plus.
Ouais.
Non mais, après tout, si des petits gris-gris comme ça peuvent faire en sorte que...
Ça peut aider,
hein. C'est sûr que visuellement ça peut être un bon truc. Je pense aussi que pour que ça se vende bien, il faut des bonnes histoires. Mais après, ça peut-être trop demandé. Je ne sais pas. Je suis critique, oui, beaucoup. Alors, c'est pas le cas. C'est pas que c'est mauvais, hein, ce Nightwing. C'est moyen. C'est gentil. Disons que voilà, c'est pas le comic de l'année, quoi. Donc la nouvelle direction prise par ce Nightwing, c'est que à la suite de ce qui s'est passé dans les New 52, à la fin de son run, il avait réussi à sauver Robin, qui avait un virus malfaisant en lui, ou des nanobombes, ou je sais pas quoi, enfin un truc qui était en lui. Et,
c'était vicieux.
Pour arriver à... oui, c'était vicieux. Un truc dans un enfant, c'est très vicieux. Et pour arriver à le sauver, il a fallu qu'il prête allégeance, en quelque sorte, j'allais dire au club des damnés, mais n'importe quoi, au Court of Owls, à la cour des hiboux en français, voilà, qui du coup le fait bosser pour lui et lui ordonne d'aller sauver des notables d'agression qui pourraient leur arriver en leur donnant un petit message, t'inquiète pas, la cour des hiboux, veille sur toi. Voilà, te sens pas du tout en mauvaise compagnie, non, pas du tout. On le voit donc secourir quelqu'un en Italie. C'était en Italie. Puis rencontrer un de ses contacts en Grèce qui est quand même mécontent puisque voilà, il reste encore un super-héros. Il ne tue pas les gens. Mon Dieu, mais quel affreux gredin ce Nightwing. Il ne tue pas les gens. Il est pas gentil. Ce serait quand même mieux pour la cour des hiboux s'il pouvait leur casser la gueule vraiment et les buter en même temps. Ça les arrangerait. Et Batman qui va gentiment le renier en lui disant « Écoute, t'es grand, mon coco. Je suis d'accord que tu fasses cette mission. C'est une très bonne idée. Maintenant, je t'ai appris tout ce que je sais. Arrête de me casser les couilles avec tes questions. Démerde-toi. »
Voilà.
Je schématise, mais c'est un peu le discours que lui tient Batman. Quand même, c'est « Écoute, je t'ai enseigné tout. T'es super bon. Voilà, t'es aussi bon que moi maintenant. Donc, me fais pas trop chier avec tes questions. Prends tes propres décisions. Assume. » Moi, le sous-entendu que je vois, c'est « si tu te plantes, je te le ferai savoir, t'inquiète pas ». C'est peut-être moi, hein, mais j'ai l'impression que Batman, le jour où il va se planter, va bien lui mettre un grand coup de latte dans les dents en disant « t'es qu'une merde, je te renie, t'auras pas mon héritage ». Peut-être que je vais trop loin. Et puis donc, il va devoir partir à Moscou, en Russie, pour une mission et rencontrer un nouveau contact qui va être son partenaire, un dénommé Raptor qui va avoir beaucoup de choses à lui apprendre et notamment comment se faire casser la gueule en deux leçons. Voilà, il va se prendre une branlée. Et ce Raptor en sait peut-être beaucoup plus sur Nightwing que ce qu'on pouvait croire au départ et ne connaîtrait-il pas son identité secrète peut-être. En tout cas, c'est le mystère qui laisse un petit peu en suspens à la fin de ce premier épisode. Franchement, c'est pas mal. C'est pas sans sas. J'attends un petit peu plus pour être vraiment happé. La série est vraiment pas mauvaise, mais voilà, je suis pas autant hypé que j'aurais pensé l'être au départ.
Il garde du coup le côté globe-trotteur de Grayson, quoi.
Ouais, c'est ça. On garde le côté espionnage de Grayson, puisqu'il va parcourir le monde, il va faire des missions d'infiltration, etc. Mais là, c'est pour le compte de la cour des hiboux qu'il essaye d'infiltrer en même temps. C'est-à-dire qu'il décide de jouer le jeu, de travailler pour eux, ouais, pour récupérer des informations et ensuite arriver à les détruire de l'intérieur.
Ouais, c'est pas très malin. Enfin voilà, il y a une intrigue très très proche, hein, dans le Redwood. Les deux Robin font un peu exactement la même chose avec le résumé que tu me fais. Et bon, après, peut-être que ça va changer.
Et du coup, voilà, bon, ça reste sympa. franchement, c'est pas une mauvaise lecture. J'ai envie de mettre un bon check-it plus, mais j'irai pas jusqu'au bail. J'ai pas eu cette petite étincelle qui m'a super séduit en me disant putain, voilà un titre que je vais pas lâcher. Je vais aller voir le 2 sans me forcer du tout. Je le lirai avec plaisir. Mais il me manque encore cette petite étincelle. La révélation de Raptor sur la fin, je la trouve gratuite et facile. Alors j'attends de voir ce qu'il va nous proposer avec ce personnage-là et s'il y a vraiment un peu plus que ce qu'il nous montre à la fin, parce que s'il y a que ça, franchement, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde comme révélation, quoi, comme cliffhanger. On verra ce que vaut le personnage de Raptor aussi. Moi, les personnages de mecs qui débarquent de n'importe où, qui savent plein de choses et qui sont trop balèzes, on a vu ça 12 milliards de fois, ça commence à me lasser, quoi. Donc, un bon check-it plus, mais je n'irai pas jusqu'au bail. Terminons avec Titans numéro 1, que je n'ai pas le temps d'aller lire, malgré que c'était sur ma pull list, pendant que je vais m'empresser de faire les TPB à l'arrache que j'ai oublié de préparer, Bruno. Merci.
Alors, Titans numéro 1, c'est écrit par Dan Abnett, avec au dessin Brett Booth. Et c'est le numéro qui continue un petit peu de développer l'histoire qui avait été amenée dans le DC Universe présente des séries Burst, là, machin, là, où on voyait Wally West qui revenait dans la continuité et qui faisait se rappeler à certains personnages le passé, le vrai passé de DC. Tout particulièrement dans le numéro Rebirth, il avait réussi à rassembler son équipe de titans, l'équipe de l'époque, ils les avaient tous touchés les uns après les autres, et ils se sont tous rappelés qu'ils avaient été potes avant. Donc,
je m'en rappelle pas, viens me toucher, Wally.
C'est ça. Donc il y avait Nightwing, il y avait Donna Troy, il y avait Red Arrow, enfin voilà, ils étaient pleins. Et donc dans ce numéro, ça commence avec... justement, ils vont essayer de découvrir un petit peu plus ce qui est arrivé à Wally. Pour cela, ils vont utiliser les pouvoirs de Lilith, donc qui est capable d'aller sonder un petit peu dans l'esprit de Wally West. Et très rapidement, ils vont se rendre compte que son esprit est complètement obscurci par... plutôt éclairé uniquement par une personne, à savoir le nom de Linda. Il n'arrive pas à penser à quelqu'un d'autre, et donc il va leur expliquer que Linda, c'était sa copine, qu'elle l'a oublié, qu'il a eu l'occasion de la croiser quand il est ressorti un petit peu de cette prison dans la Force Velos, et qu'elle ne l'avait pas reconnu, qu'elle avait eu peur. Du coup, on se rend compte que dans ce titre Titan, on va suivre également en parallèle Linda Park, son histoire. Elle est reporter pour un journal internet Super News, et donc elle va se mettre
franchement ils se sont fait chier pour le nom, quoi.
Ils sont bons, hein, ils sont bons, et elle va se mettre justement en quête d'en apprendre un peu plus sur cette personne bizarre qui est sortie, qui est apparue devant elle et qui a commencé à lui dire qu'il était éperdument amoureux d'elle et qu'il fallait qu'elle se souvienne d'elle. Donc voilà, elle prend un petit peu les choses en main pour essayer de découvrir qui est ce personnage. Et on va suivre une intrigue autour justement de la perte de mémoire des titans, puisqu'ils avaient déjà été confrontés à une personne dans la série Titans Hunt. C'était quoi la série qui était sortie, la mini-série là? C'était,
Titans Hunt, en effet. Excuse-moi, j'étais en train de rouler une clope, j'avais coupé le micro.
Et donc ils sont en train de se dire « Ah, c'est bizarre, on nous a fait oublier plein de choses et tout. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre aussi qui aurait pu faire ça ?» Et donc petit à petit, ils vont essayer de trouver un indice dans l'esprit de Wally. Ils vont remonter une petite piste qui va les amener vers quelqu'un. Voilà, je vais pas en dire plus.
Petite question de Pascal89 sur le chat qui nous dit « Donna Troy, elle est toujours responsable d'avoir tué les frères des Amazones ou c'est un autre perso ?»
Alors, pour tout vous dire, j'ai complètement fait l'impasse sur le run de David Finch, de Wonder Woman. Donc je sais que Donna Troy est ressortie d'un chaudron, je ne sais pas par quelle magie, dans le run de David Finch, et je ne sais pas du tout ce qu'elle a fait par la suite. Mais là, elle est revenue un petit peu comme à l'époque, elle est plutôt sympa. Elle fait encore des cauchemars sur ce qu'elle a fait dans son passé, justement, parce qu'on lui avait fait... perdre la mémoire et compagnie. Mais là, c'est vraiment l'ambiance du titre. C'est un peu le point faible de ce numéro. J'ai trouvé que c'était un peu trop ambiance YOLO, équipe de Young, quoi. Mais c'est genre les Teen Titans, quoi, leur blague. Il y a même à un moment, il y a Red Arrow qui dit « Ah, mais on est dans les Teen Titans, ici !» Et c'est vrai que ça fait vraiment trop ambiance YOLO, au KLM posé.
Oh non, mais c'est... Oh putain, mais... Oh, le mec, il parle trop de Jones, quoi.
Et ça m'a un peu gêné parce que c'est des persos qui sont quand même tous maintenant adultes. Voilà, ils sont censés être les titans. Et ça manquait un petit peu de gravitas, on va dire. Mais j'ai trouvé quand même la lecture plaisante. C'est bien mieux que le numéro Rebirth où voilà, c'était complètement relou de voir Wally toucher tout le monde. Là, on sent qu'il y a quand même une petite intrigue. Il y a un retournement de situation à la fin, quelque chose qui m'a à la fois surpris, en même temps je me dis voilà, il joue un petit peu avec nos nerfs, puisque voilà, est-ce que ce qu'on a lu dans le DC Rebirth numéro 1, ça va être retconné déjà, ou est-ce que c'est un peu plus compliqué? Voilà, c'est, j'ai trouvé ça assez malin, puis ils reprennent un perso un peu obscur qu'on n'avait pas vu dans les New 52, il me semble. Donc c'est voilà, j'ai trouvé la fin plaisante et ça m'a donné envie de poursuivre la série. Les dessins de Brad Booth sont très efficaces. Je suis pas le plus grand fan de ce dessinateur, mais ça reste très propre. Il y a de belles scènes. Les persos sont peut-être un peu trop longilignes, bogossitude et compagnie, mais ça va. C'est quand même assez plaisant. Je vais mettre un bon petit bail pour ce Titan numéro 1. Donc un bon boulot de la part d'Amnet. Juste problème, voilà, dans les dialogues, je trouve ça fait un peu trop gamin. Et par exemple, Red Arrow est complètement insupportable dans le numéro.
On avait Bastien sur le chat qui disait, alors je retrouve la phrase, c'est peut-être un peu trop fanservice aux Titans, mais c'est fun.
Ouais, bah, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ça fait le job et voilà, ça joue un peu quand même de ce qu'on a pu avoir dans ce gros prologue à Rebirth. Et donc ça développe un peu cette histoire et ça c'est intéressant. Tout comme ce qu'on a pu voir dans Flash. Donc les titres qui tournent autour de Flash et de Wally West pour l'instant, je trouve que c'est des bonnes pioches. C'est bien, ils ont remis les bolides en avant et ils font de bonnes choses.
Oh, c'est de vanne involontaire.
Ouais, c'est ça. Mais ça me fait plaisir parce que c'est vrai que toute la partie Flash dans les New 52, je m'étais très vite lassé et j'avais complètement laissé tomber au bout d'une vingtaine de numéros. Et bah là, je suis à nouveau assez intéressé par ces titres.
Eh bien, nous allons terminer avec les TP d'essai de cette semaine. Nous avons Demon TP volume 2 qui s'appelle The Longest Day. Et c'est le run de Garth Ennis et John McCrae sur The Demon. Ça contient les épisodes 49 à 58 de la série The Demon qui était sortie dans les années 90. Ça vaut 20$. Nous avons également le deuxième book du... Alors, DMZ TP Book 2. Voilà, les épisodes 13 à 28 de DMZ, série de Brian Wood et Ricardo Burkeli. Sur un monde dans lequel New York est une cité complètement renfermée et que les États-Unis ont complètement laissé tomber, une espèce de zone démilitarisée, DMZ. Voilà, avec
très bonne
un
édition, pas cher.
Journaliste. Ouais, c'est pas cher en plus, un 25$ en effet. Un journaliste qui va enquêter sur cette DMZ qui se retrouve un petit peu piégé là-dedans. Et toutes les intrigues politico-militaires et civiles qui peuvent s'y dérouler. Voilà. Pour faire très très simple. Hein. Nous avons la sortie de Suicide Squad au cinéma bientôt, donc il faut fêter l'édition papier de Suicide Squad, hein, avec Harley Quinn Book and Mask 7, une version du premier book, enfin du premier TP de Harley Quinn qui s'appelle Hot in the City, en TP avec un masque d'Harley Quinn, évidemment. Le masque d'Harley Quinn du comic qui ne ressemble en rien à celui du film, évidemment. Donc préparez-vous pour l'édition film dans pas longtemps, comme ça vous le paierez deux fois. $35. Putain, c'est cher. Ah non, franchement, $35 pour un masque à la
en
con,
bout de
quoi.
Plastique.
Ouais, c'est se foutre de la
ils
gueule.
Ont, ils ont fait mieux en plus hein, au niveau confection de masque.
New Suicide Squad, TPB, volume 3, avec les épisodes de 13 à 18 de la série New Suicide Squad. Évidemment, Suicide Squad au cinéma, on le ressort en comique. Également, Suicide Squad de Silver Age Omnibus. Bah oui. Sortant un omnibus également pour la sortie du film. C'est logique. C'est logique. Avec Brave and the Bold 25 à 27 ainsi que 37 à 39. Star Spangled War Stories 110, 111, 116 à 121, 125, 127 et 128 qui sont donc les premières apparitions du Suicide Squad version Silver Age.
Ouais, du vieux matos. Hein.
Voilà, c'est du très vieux matos. Là, c'est beaucoup plus justifié. Mais cette abondance de produits Suicide Squad au moment où sort le film, c'est juste un petit peu gerbant, quoi. C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment autre chose. C'est un peu dommage. Mais c'est con parce que c'est une bonne édition. 50$, c'est du hardcover. $50, surtout que ce sont des vieux trucs et à trouver, c'est pas forcément évident, quoi. New Teen Titans TPB volume 5, c'est le run de Marv Wolfman et George Perez, $20 pour les épisodes 28 à 34 de la série New Teen Titans, ainsi que le New Teen Titans Annual numéro 2.
Ça, c'est à posséder.
Exactement, voilà. Et puis enfin, série 2 Vertigo, Red Thorn sort son premier TP qui s'appelle Glasgow Kiss. Les 7 premiers épisodes. Je ne sais pas si la série continue d'ailleurs, j'ai un gros doute.
Si, oui, c'est un ongoing.
D'accord. Donc,
ouais, le numéro 9 qui est sorti cette semaine, je crois.
Ok, donc les 7 premiers épisodes sont réunis dans ce TP qui, du coup, pour cet épisode, n'est pas si cher que ça, $15. Voilà, c'est honnête.
Ouais.
Allez, on va continuer avec la partie 1 des Bruno. Alors, je regarde juste où on en est au niveau du temps pour caler. Ouais, on calera, on fait la partie 1 des et puis on cale la pause Zik et on fera ensuite Marvel.
Petite partie 1 des.
Donc, sortie. Alors, c'était la semaine dernière parce qu'il a fuité, mais en Europe, il est arrivé en papier. Bon, tu vas nous expliquer tout ça.
Ouais.
Voilà,
hein, ouais.
Tu nous expliques. C'est ton boulot de vendeur de comics.
J'écoute même pas ce que disait Kiwi dans l'émission précédente. Il en avait parlé ou pas de ce titre ? Parce que je me suis demandé après si on l'avait chroniqué déjà, mais...
Ah, tu mets le doute.
Ça m'a pas marqué, alors je vais vous faire une vraie critique, hein. Désolé Kiwi. Hein.
Ah, quel enculé. Ah
Donc non, bah en fait, Captain Kidd, effectivement, devait être disponible sur certaines plateformes téléchargement, ou même sur Comixology, peut-être la semaine dernière, mais il est arrivé dans les comic shops cette semaine. Donc c'est le nouveau titre de Aftershock, écrit par Mark Waid et Tom Payer, c'est-à-dire c'est co-écrit, hein, c'est une co-création, avec au dessin Wilfredo Torres.
Oui, il en avait parlé, en fait. Il avait trouvé ça sympa, mais bah, ça manquait de folie. si ma mémoire est bonne,
Hein. Du coup, on vous refait la même. Mais voilà. Alors, c'est dessiné par Wilfredo Torres, qui avait dessiné Jupiter's Circle il n'y a pas longtemps pour Mark Millar. Bah, moi, j'ai bien aimé ce numéro 1. J'ai trouvé ça très intriguant, très bien écrit par Mark Waid et Tom Payer. Des dialogues qui sont assez adultes, assez... désabusé, puisque le héros qu'on va suivre, il a la quarantaine bien passée, il fête ses 45 ans, il a eu beaucoup de problèmes dans sa vie cette année, il a perdu des gens de sa famille, il doit s'occuper de son père qui est malade, il a des problèmes d'argent, il a des problèmes au niveau de son travail, et on le voit avec ses amis proches dans un bar, fêter son 45e anniversaire, et là il va faire la rencontre d'une nana un peu bizarre, qui est habillée un peu façon années 80, et qui lui dit des choses assez étranges, comme de faire attention à un gars qui est dans le bar, qu'il faut qu'il aille s'en occuper. Et là, il dit, mais qui est cette nana? Pourquoi elle me parle? Et en fait, très rapidement, on va se rendre compte que ce personnage désabusé, ce héros, Chris, en fait, il cache un secret. Il cache un secret, c'est-à-dire il y a quelques temps, il a été frappé par quelque chose, un événement qui, pour l'instant, est encore secret, qui fait qu'il est capable de se transformer en Captain Kidd, c'est-à-dire un super-héros bien plus jeune, la vingtaine, qui est capable de voler, qui a des pouvoirs assez impressionnant. Il est capable, en touchant des objets, de découvrir ce qui se passe, de voir à travers les murs. Enfin, voilà, c'est une sorte de Superman un petit peu plus désabusé, puisque il fait énormément de monologues intérieurs où il montre à quel point il trouve que la vie actuelle, c'est de la merde. Et il va surveiller, du coup, le gars que la nana lui conseille de surveiller. Il va découvrir une sorte de petite conspiration. Et petit à petit, on découvre cet univers. Je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Je ne sais pas si cette série sera une série longue ou une maxi ou une mini-série, mais en tout cas, c'est intriguant. Il y a des mystères concernant l'obtention des pouvoirs du héros. La personne qu'il a rencontrée dans le bar, cette nana, on va en apprendre un petit peu plus sur elle. Et puis, il y a un petit twist à la fin qui m'a intrigué. J'aime bien le ton. C'est un petit peu différent de ce qu'on peut lire sur d'autres comics de super-héros. Et graphiquement aussi, c'est assez solide ce que fait Wilfredo Torres. C'est parfois peut-être un peu simpliste, mais voilà, c'est très efficace. Et il y a un petit côté Silver Age, justement, dans ce comics, malgré qu'il se passe à notre époque. Donc une bonne production, une bonne pioche pour Aftershock. Je vais lui mettre un bon bail. Je vais continuer, je vais au moins lire le numéro 2, ça c'est sûr.
Et je vais rectifier tout de suite, puisque je me suis aperçu entre-temps, hein, pendant que tu faisais la review, que non, ce n'était pas Captain Kidd qui l'avait chroniqué, mais Black Hammer, qu'il avait trouvé pas foufou. Du coup, il n'avait pas chroniqué du tout Captain Kidd. Donc, toutes mes excuses pour cette petite confuse. Voilà.
C'est pas mal.
Continue avec du IDW. Il s'agit de la sortie du premier numéro de Rome. que j'attendais beaucoup. Parce que Rome, oh putain.
Parce que tu aimes les gladiateurs.
C'est ça, okay. C'est ça. J'aime les jupettes, les sandales, les épées et les torses huilés. Rome 1, donc écrit par Chris Ryle, accompagné de Christos Gage. Ce qui m'a beaucoup rassuré quand j'ai ouvert le comic, de voir que Christos Gage était dessus, je me suis dit, ah, c'est pas que je n'aime pas Chris Ryle, hein. Chris Ryle, éditeur en chef d'IDW, il a quand même écrit pas mal de comics, mais j'ai plus confiance dans le style de Christos Gage que le style de Chris Ryle, qui est gentil, mais pas ouf, honnêtement. Les dessins et la colorisation sont de David Messina, et l'ancrage est de Michel Pasta, ou Michele, je ne sais pas, j'en sais rien. Alors, on avait eu un Free Comic Book Day de Rome qui a été réimprimé dans ce numéro Oversize, je le rappelle.
Ah, c'est bien, ils l'ont remis.
Oui, ils l'ont remis dedans. D'aucuns diront que c'est un problème puisque c'était juste un preview, le Free Comic Book Day, et non pas du matériel inédit. En même temps, ce numéro de Rome numéro 1 est pas si cher que ça. Il n'est qu'à 5$ pour un numéro qui fait bien 45-50 pages, quoi. Donc l'un dans l'autre, voilà.
Oui, ça va, ça passe.
Ça reste honnête. On a donc un Rome. Pour ceux qui ne connaissent pas, Rome est un espèce de chevalier en armure. Le design n'a pas été trop modernisé, juste légèrement arrondi, mais on a encore pas mal d'angles assez carrés. Produit de son époque, hein, des années 80, modèle de jouet qu'on avait imposé dans les comics pour essayer de le faire vendre un peu plus.
Voilà, chez Marvel avant.
Chez Marvel, évidemment, dans les années 80. Ça fait partie de ce gros revival qu'opère IDW actuellement, avec les séries comme Mask, Rome, comme les Micronautes qui sont saccagés. Oui, pour moi, ils l'ont saccagé. C'est de la merde. Et G.I. Joe, qu'ils continuent, hein, qu'ils éditaient déjà, mais qu'ils continuent, qu'ils ont mis tout ça dans cet univers, dans ce petit univers qui va entrer en crossover bientôt, dans une histoire qui s'appelle Révolution. Tout ceci est un univers partagé maintenant chez IDW. Ça a son importance. Ça a son importance, ça veut dire que les personnages peuvent se croiser les uns les autres. Ce Rome donc arrive sur Terre alors que deux flics sont appelés sur les lieux d'un... Ils savent pas trop en forêt, ils savent pas trop pourquoi ils vont intervenir. Probablement un feu de camp qui aurait peut-être dégénéré des enfants, des ados qui auraient fait des cons dans la forêt, ce genre de truc-là. Quand ils sont dépassés à toute vitesse par un espèce de tank, en tout cas de véhicule militaire... relativement bien blindés, qui les dépassent comme des oufs, et qui sont sur place avant eux. Et finalement, c'est là que débarque Rome, cette espèce d'être en armure qui est un extraterrestre. Imaginez le Silver Surfer. Voilà, grosso modo. Je vais schématiser à mort. Voilà, pour qui ne connaîtrait pas Rome, c'est un peu comme le Silver Surfer, en termes de design. Hein. Et il va parler comme le Silver Surfer aussi, c'est-à-dire avec un dialogue Silver Surfer des années 60, un dialogue un peu soutenu, un peu chiant à lire, mais qui correspond avec le personnage. Enfin, je veux dire, un peu chiant à lire. Pour les standards d'aujourd'hui, disons. Mais moi, ça ne me déplaît pas. Ça ne me déplaît pas. C'est que la majorité des gens ont trouvé que c'est peut-être un peu... Ça blablate, quoi. Moi, je m'en fous, perso. Il débarque et Rome reprend sa mission qu'on connaissait initialement, c'est-à-dire chasser les fameux Dire Wraith. Alors, en français, je ne me rappelle plus comment ils les avaient appelés. Les Spectres Noirs, je crois. Quelque chose comme ça.
Je ne pourrais pas t'aider. Je suis complètement passé à côté de Rome. Moi, c'est vraiment...
Qui en fait, c'est en fait la race ennemie jurée. Les Dire Wraith existent toujours chez Marvel, je crois. Hein. Ils ont toujours les droits. Les Dire Wraith, c'est donc une race, la race ennemie des Space Knights, la race à laquelle appartient Rome. Et ils se sont infiltrés sur Terre, ont des pouvoirs de métamorphes qui leur permet de prendre l'apparence humaine, en tuant les gens et les remplaçant, grosso modo. Et ils ont pourri la planète de Rome, et Rome veut les empêcher de se répandre à travers la galaxie, de pourrir d'autres mondes. Voilà un petit peu le côté un peu Silver Surfer, quoi, vaguement. Comme je dis, je schématise, ne me jetez pas des pierres dans les commentaires, ça ne sert à rien. C'est des pierres virtuelles, ça fait pas mal. Et donc il arrive, il détecte les gens, parce qu'il a, il a plein d'armes dans, dans sa petite armure, toute fofolle. Il a plein de trucs, il a un détecteur, il a des rayons qui font se désintégrer les Dire Wraith. Et il détecte des Dire Wraith dans ces fameux militaires qui étaient sur place. Et du coup, il leur pourrit la gueule, quoi. Il est détruit. Ce qui surprend un petit peu les flics, hein, qui comprennent pas trop ce qui se passe. Ils voient un espèce d'extraterrestre qui arrive en leur parlant langage extraterrestre, qui s'adapte très vite à leur langage, puis qui leur dit « Oh là, vous êtes pas des humains, je vous pourris ». Ça choque un peu. effectivement, les militaires étaient infiltrés par ces fameux Dire Wraith. Et on se rend compte que l'infection et l'invasion de cette race est beaucoup plus importante que ce que l'on pourrait croire. Et ils se nourrissent des corps humains pour activer leur pouvoir, parce que ce sont des extraterrestres qui marchent un peu à la magie. Et donc, Rome va essayer de débusquer un peu les nids de Dire Wraith dans des petites villes, pendant que certains humains vont commencer à prendre conscience qu'ils sont envahis. Alors, ça rappelle un petit peu pas mal de choses, comme on a pu voir dans Exo Manowar, notamment avec les Vines.
Oui,
notamment, c'est assez proche en termes d'histoire, hein, assez proche. En tout cas, ça part du même postulat. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment à la lecture. J'ai pas réellement senti passer les 40 pages, je dois vous l'avouer. J'ai lu ça vraiment bien.
Ouais, contrairement à Micronauts, c'est plus introductif, parce que tu avais été un peu
perdu
dans Micronauts.
Ouais, j'étais un peu perdu dans Micronauts. Pourtant, j'avais lu les Micronauts d'époque, mais je me sentais vachement perdu dans les Micronauts, je reconnaissais pas les personnages. La Rome, visuellement, déjà, est très reconnaissable, en plus, il y en a qu'un. Oh, le mec débarque sur Terre de nulle part et dit qu'il va péter la gueule, une espèce race de race extraterrestre. voilà, tu te laisses porter dans le truc, tu vois vite qui sont les méchants. De toute façon, ils commencent à bouffer des humains, donc tu comprends bien qu'ils sont méchants très vite. Et du coup, tu te ranges du côté de Rome. En plus, de toute façon, la série porte son nom, donc t'es obligé de te ranger de son côté, quoi. Ça paraît logique. Non, franchement, c'est fun à lire. C'est pas ouf non plus, mais c'est fun à lire. J'ai passé un bon moment. Il y a un prélude de 4 pages de Révolution qui commence au mois de septembre, ce fameux crossover qui va revenir. Donc les franchises dont je parlais tout à l'heure, hein, Mask, G.I. Joe, Rome, les Micronauts, et puis Transformers également. Ouais. Tout ça dans un univers partagé. Sachant qu'on a un bon petit cliffhanger. Au début, j'ai relu 2 fois le cliffhanger pour comprendre de qui on parlait. Voilà, intégration de personnages qui font maintenant partie de l'univers d'IDW à la fin de ce premier épisode. À qui les militaires qui sont infiltrés demandent de l'aide. C'est très malin.
Moi, il y a un truc qui me gêne, enfin là, c'est par rapport à Révolution, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est que, par exemple, Mask va revenir avec Révolution, et c'est la seule licence vraiment, parce que Rome et Micronauts, moi je m'en fous un peu, mais Mask, ça m'a marqué dans ma jeunesse, et je suis un peu deg de commencer avec un gros crossover avec tous les trucs là. J'aurais bien aimé que ce soit un peu dans son coin, mais bon, c'est pour vendre, hein, je pense que c'est...
Ouais, bah après le crossover...
Il y aura peut-être après la vraie série qui débutera après le crossover. Quoi.
J'espère sincèrement que le crossover ne va pas trop impacter la série principale. Ça va me faire chier. Parce que Cullen Bunn m'a déjà pourri Micronauts, que j'ai vraiment droppé parce que j'en pouvais plus. Je trouvais ça vraiment lourd, mal écrit. Je reconnaissais aucun personnage et ça n'avançait pas. Au bout du 3e épisode, ça n'avançait pas. J'ai fait, va te faire foutre. C'est bon, je ne suis pas une vache à lait. Là, Rome, ça commence bien, c'est un bon postulat de départ. La révélation finale peut être intéressant, faut voir comment c'est fait, mais soit ça nous emmène vers le crossover, et dans ce cas-là, ça va peut-être me faire un peu chier, parce qu'en plus, c'est Cullen Bunn qui écrit la partie principale, donc ça m'emmerde un peu quand je vois ce qu'il a fait de Micronauts.
T'as gavé de taïne, hein.
Après, ouais. Mais si c'est juste l'histoire qui continue son chemin et que Révolution est à côté, dans ce cas-là, c'est nickel. Alors, on a quelques petites réactions hein, sur le chat.
Ouais, beaucoup de blagues beaucoup sur le blagues, nom du comics.
Hein. Podcatch, alias Mister René Bonny qui nous dit Rome fait un baba, bonne histoire. alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Alors, oui, je l'ai vu. Alors, excusez-moi, je reprends. Elle est où ? Parce celle-ci était bonne. Alors, Jonathan nous a dit Rome,
pas toute bonne,
hein. Rome, Anne Reigns. Pardon, je sors. Pour les fans Jonathan. De catch. Oui, et c'était Podcatch.
Faire les fêtes de Bayonne.
C'était Mister René Bonny à qui je vais rendre excellente blague qui nous dit il y avait aussi Rome Raisin par Lob et Sale. Qui, au niveau de la couleur, moi je trouve la vanne super valide. Voilà.
Ouais, ça passe.
Bah, moi, elle me plaît.
Oui, tout. Oui, ça passe. Ça passe.
Le mec critique. Bref, pour moi, c'est un.
Sur 10.
J'hésite à dire un bail. Pour moi, c'est un bail, ça m'a vraiment plu. Maintenant, si vous n'êtes pas familier de l'univers de Rome, si vous en foutez un peu de ce revival des années 80, je suis pas certain que ça vous intéresse des masses, quoi. Surtout que si vous voulez lire ce genre d'infiltration, vous l'avez aussi dans Exo Manowar. Donc si vous l'avez déjà lu dans Exo Manowar, vous avez pas trop envie de vous répéter une histoire un peu dans le même genre. Alors, il y a quelques twists hein, que je me suis bien gardé de vous annoncer, pour pas vous révéler tout le comique, mais je sais pas si c'est réellement adapté à un public d'aujourd'hui. Est-ce que ça fait pas appel à un public de vieux fans que nous étions à l'époque et avons découvert ça quand on était plus jeunes ou qui sont déjà familiers de ces licences ? J'avoue que j'ai pas la réponse. Donc je vais mettre entre le check-in plus et le bail, mais j'ai vraiment pas détesté cette lecture, je l'ai même plutôt apprécié en fait. Hein. Ça m'a bien plu, j'irai voir le 2. Donc comme quoi, ça m'a quand même plu. Passons donc au TP et nous irons à la pause musicale ensuite, car mon café est vide et j'ai très soif. Wild's End TPB volume 2, sorti chez Boom Studio, volume 2 qui s'appelle Enemy Within.
Très bien ça.
Et je n'ai pas les numéros. Putain, j'ai pas les numéros, bordel.
Ah bah, c'est une mini-série
complète,
hein.
C'est la mini Enemy Within, d'accord. Ouais. Ça vaut $20. Écrit par Dan Abnett et ING Kulbard.
Ouais, c'est très bien ça.
Au dessin. Un monde d'anthropomorphes, voilà.
Ouais, tout à fait. Avec une invasion alien.
Dragon Age Mage Killer est sorti chez Dark Horse, série de Greg Rucka, avec les épisodes 1 à 5 de la mini-série. Mini-série au complet, évidemment, pour les fans du jeu vidéo ou ceux qui ont envie d'aller plus loin que cet univers de jeux vidéo. $15. Nous avons également de Brendan McCarthy, un recueil d'histoire de Brendan McCarthy, pour ceux qui aiment le monsieur, chez Dark Horse, s'appelle Dream Gang, et qui va reprendre toutes les histoires de Dream Gang avec les chapitres qui étaient parus dans les Dark Horse Presents, notamment les numéros 1 à 4, 7 à 10 et 14 à 17, donc 3 histoires, ainsi que des choses qui étaient parties, passées un petit peu par-ci par-là, voilà.
Faut pas être épileptique. Hein.
Ah oui, c'est bourré de couleurs, façon
c'est
très coloré. LSD années 70, quoi.
Ah oui, là, carrément. Ouais.
De toute façon, il n'y a que la cover. Voilà. Si vous avez retrouvé cette ambiance. $15 pour ce TPB. J'ai l'impression qu'on fait ça vraiment à la je m'en foutiste ce soir. Moi, en tout cas, je suis en mode, je fais ça à l'arrache.
Non, mais c'est bon, on est professionnel.
Victory, je ne sais pas comment ça se prononce, City, est un TPB qui est sorti chez IDW. C'est écrit par Keith Carmack et Vincent Nappy. Une histoire un petit peu horrifique. Voilà, je signale simplement la sortie, ça vaut $18. C'est TPB, mais je me demande si ce n'est pas un graphic novel, en fait, tout simplement.
Ça a l'air d'être un graphic novel puisqu'il ne précise pas les issues à l'intérieur.
Ouais, je me rappelle pas avoir vu passer ça en single.
104 pages.
Voilà. Une série à côté de laquelle je suis entièrement passé. J'ai vu sortir ça chez Image, donc tu vas pouvoir me confirmer si c'est bien du single ou pas. Blue Monday,
alors j'en sais rien. Ah ouais. Oui.
C'est
oui,
une
oui,
vieille mini-série si. Apparemment, d'après
bien
ce que
sûr.
Je vois.
Oui, non, j'ai vu passer, mais alors c'était pas très beau. Hein. Donc, je crois qu'on n'en a pas commandé beaucoup à la boutique.
Une vieille mini-série, et il y a quand même une introduction de Kieron Gillen, s'il te plaît. Ça vaut $10, numéro introductif pour vous initier à l'univers. Peut-être que la série va revenir. Je vous avoue que je suis passé complètement à côté de ce truc-là. Ça contient la mini-série originale qui est sortie un jour, je sais pas quand, parce que j'ai pas l'info. Je l'ai pas cherché parce que j'ai préparé ça à la va-vite. Et des petites short stories qui précédaient cette mini-série et plein de petites choses, des bonus, des croquis préparatoires, des sketchs, blablabla. Tout ça est une série de China Cluxton Flores. Je signale la sortie comme d'habitude. Pour les fans de vieux trucs des années 80, je me rappelle plus si tu avais testé ça ou pas, Bruno. Je me demande si l'un de nous n'avait pas testé. Je sais que c'est pas moi. Saved by the Bell, le graphic novel.
Ah non, non, ça j'ai pas testé.
Le graphic novel qui est sorti chez Lionforge s'appelle Freshman Year. Si vous avez envie de retrouver l'ambiance de la série des années 80 ou pas, je sais pas, je l'ai pas lu, je n'irai pas. Screech et tous les autres, évidemment. Hein, Zach Morris, qui est bien sûr le personnage principal de cette série.
Elizabeth Berkley.
Que beaucoup ont oublié. À raison, j'ai envie de dire, à raison. $13, c'est écrit par Joel Selner et Chin Cluxton Flores également, que je citais précédemment dans Blue Monday, qui s'occupe de la partie
comme
graphique.
Quoi.
Voilà, comme quoi cette personne est vachement
tout
mise en avant cette semaine.
T'es lié.
Oui, si on cherche bien, oui. C'est donc sorti chez Lionforge, hein, petit éditeur. Voilà, je signale la sortie, surtout pour le côté fun revival des années 80. Youpi, youpi, on va pas aller le lire.
Il y a une série Punky Brewster aussi qui existe en comics, d'ailleurs.
Bah oui, mais pourquoi pas. Moi, je dis pourquoi pas.
À quand la série Arnold et Willy?
On ferait vérifier, ça a peut-être été fait. En tout cas, un projet qui s'irait bien, je pense, à Blue Water. Voilà. Invader Zim, deuxième TP, est sorti le volume 2 de cette série tirée de la série animée qui fait un joli carton hein, actuellement. $20 pour le deuxième TP. J'accélère pour la fin des TP. Imperium volume 4 est sorti chez Valiant avec les épisodes 13 à 16 de cette série, toujours écrite par Joshua Dysart avec des dessins de Carrie Evans. Ça vaut $15. Nous avons également chez Titan Garth Ennis Battle Classic qui reprend plein d'histoires écrites par Garth Ennis, des histoires de
avec
guerre.
Des avions, je suis sûr.
Ouais, c'est ça, des histoires de guerre.
Des militaires. Et la Deuxième Guerre mondiale, peut-être.
Voilà, c'est lui qui s'occupe de collecter, en fait. Pardon, c'est lui qui s'occupe de collecter ces histoires. Elles ne sont pas forcément écrites par lui. Voilà, si je lisais mes sollicitations correctement.
Grand fan.
Voilà. Apparemment, il y a du John Wagner, du Mike Western et du Cam Kennedy. Je me fais pas chier, je lis juste ce qui est écrit sur la cover. Ouais, j'ai l'honnêteté de le dire. $40, c'est du hardcover. Et enfin, chez Titan, pour les fans de l'univers de l'animé, j'arrête pas de taper dans le micro, je suis désolé si ça s'entend. Art of Ice Age. Titan qui nous fait beaucoup de bouquins comme ça, Art of un film. Et donc, Art of Ice Age, collection concernant tout l'univers développé en film depuis 2002. Ça vaut $50.
Si après Scratch, c'est Scrat.
J'ai plein de vannes à faire. J'ai plein de vannes à faire, mais,
la pause.
Mais aucune n'est bonne. Je vais donc m'abstenir. Voilà. On va donc passer à notre pause musicale, une pause relativement courte. Hein. C'est un morceau emblématique, s'il en est, de Black Sabbath, ça s'appelle Paranoid. On se retrouve d'ici moins de 3 minutes. Prenez une dose de vieux classique dans les oreilles. Nous sommes de retour pour ce 306e Comics Weekly. Non, ce n'est pas la Peugeot 306 et j'en ai dépanné plein encore aujourd'hui. Putain, j'en ai marre. Ça n'a absolument aucun intérêt ce que je raconte. Hein. Bruno, tu peux m'interrompre quand tu veux.
Pas acheter français, quoi.
non, mais j'ai dépanné
plein d'autres choses. Tu pourras faire des stats, savoir ce qu'il faut acheter comme voiture.
Bah, non, mais techniquement, s'il y a plus de voitures françaises sur le territoire, il y a forcément...
Oh là, commence pas à faire des maths, là.
Non, mais c'est vrai. Enfin, je veux dire, si il y a un parc de voitures françaises plus importante, il est logique qu'il y ait plus de voitures françaises qui tombent en panne que les voitures étrangères.
Oui.
Statistiquement, c'est logique. Bref, nous allons continuer nos reviews. Ça n'a absolument aucun intérêt. Je sais pas où
il y a eu des gens qui sont tombés en panne parce qu'ils jouaient à Pokémon Go. Ah, alors, ils n'ont pas osé le dire.
S'il y en a,
ils n'ont pas, pas leur franchise.
J'ai eu quelques soucis d'embouteillage avec pare-choc contre pare-choc sur des autoroutes, etc. Possible qu'il y ait un connard qui, dans les embouteillages, s'est dit « Tiens, je vais sortir Pokémon Go, ah, faut avancer, j'ai pas vu que ça freine. » Possible, mais je n'ai pas confirmation.
Bon.
En tout cas, pour le moment, je n'ai pas dépanné de Pikachu. Pikachu n'avait pas besoin de remorquage. C'est déjà ça.
Pika Pika.
Ça n'a... Je sais pas ce que je raconte.
Ah, il est tard, il est 23h35.
J'ai une très longue journée en plus. Passons donc à Marvel, la maison des idées recyclées.
Oui.
Avec Civil War 2, si c'est pas une idée recyclée. Déjà, il y a un 2, c'est recycle.
Oui, oui.
Ouais, d'accord. Bon. Civil War 2, numéro 4, Bruno. Que se passe-t-il d'intéressant dans celui-ci? Raconte-nous
alors...
tout.
Alors. C'est écrit par Brian Michael Bendis, toujours dessiné par David Marquez. Ce numéro arrive 2 semaines après le numéro 3 qui avait tout chamboulé, puisque voilà, Bruce Banner s'est fait assassiner par Hawkeye. Voilà, ça y est, il s'est pris une flèche dans l'œil. Parce que voilà, ils avaient eu une vision où Bruce Banner pétait les plombs, devenait Hulk et tuait tout le monde. Et Hawkeye avait pris les devants, il l'avait assassiné, ce pauvre Bruce. On apprenait après que c'était Bruce lui-même qui, dans le passé, avait dit à Hawkeye que si jamais il devait à nouveau péter les plombs, il fallait qu'il agisse. Mais voilà, il y a quand même des choses qui sont un petit peu louches.
Bah, la question, c'est est-ce que Bruce est devenu tout puissant?
Ça, Bruce est toujours puissant. Bruce est très puissant. La question, c'est est-ce que ce qu'a fait Hawkeye, il y a un petit peu de choses un peu malignes derrière. Est-ce que est-ce qu'il a été possédé, est-ce qu'il a été manipulé, on ne sait pas. En tout cas, lui dit qu'il a vu que Bruce allait peut-être se transformer. Et du coup, il est en procès. Il y a eu un procès énorme où, du coup, maintenant, le monde entier est au courant que les Ultimates, et donc Captain Marvel et le gouvernement américain, ont pu utiliser les pouvoirs d'un inhumain pour découvrir des menaces avant qu'elles aient lieu. Et maintenant, tout le monde est au courant et on commence le numéro 4 avec le verdict de ce procès contre Hawkeye. Va-t-il ou non être condamné? Alors, je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais on pouvait s'attendre à ce résultat. Ce numéro 4, j'ai trouvé que c'est le plus faible des 5 que j'ai lu, voilà, parce qu'il y avait eu aussi un numéro 0. C'est assez intéressant ce qui se passe au niveau des dialogues, mais voilà, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogues, des choses qui avancent pas très vite. C'est vraiment du Bendis, comme on aime bien se moquer de lui par moment, avec des phrases qui se répètent, effectivement. Des bonnes idées, quand même, malgré tout, parce que Bendis avait un plan, il a une idée en tête concernant justement les pouvoirs d'Ulysse. C'est en lien, je pense, un petit peu avec l'actualité, avec des questions qu'on se pose sur des thèmes assez comme le profiling, le profilage des gens, les arrêter pour des choses qu'ils ont peut-être pas encore fait et tout. C'est assez intéressant, cette discussion. Par contre, j'ai trouvé que le retournement de situation dans ce numéro 4 arrive un peu trop comme un cheveu sur la soupe. Du coup, c'est vrai que je suis resté sur ma faim ce numéro m'a quelque peu déçu. Donc j'avais trouvé le numéro 3 assez puissant. Et ce numéro 4, je le trouve un petit peu comme un soufflet qui se dégonfle, malgré de très beaux dessins et quelques réflexions intéressantes. Il reste encore 3 numéros.
Alors, Jonathan sur le chat nous dit le plus couillon, c'est Star qui explique le fonctionnement des visions. Et il nous rajoute après, Bendis n'a rien compris à la notion d'algorithme.
Bah ça reste un comics, c'est l'univers Marvel, quoi. Les pouvoirs d'Ulysse sont expliqués. Ils sont expliqués. Moi, je trouvais ça tout à fait normal. Tout à fait bien expliqué.
Non, je transmets ce qu'il y a écrit sur le chat après.
Après, je suis pas un spécialiste des algorithmes, donc peut-être que je suis aussi malin que Bendis, mais.
Là, tu cherches le bâton pour te faire battre. À mon avis, sur le chat, ça va déraper.
Mais c'est le ventre mou de l'event. Pour moi, c'est un check-it. Même si je trouve que pour l'instant, les idées autour de Civil War sont intéressantes et que le plus grand problème de cet event, ça reste toujours son nom qui n'est pas adapté. Et à côté de ça, heureusement, ça amène beaucoup de tie-in très intéressants, dont je vais parler après. Donc un check-it pour ce numéro 4.
Bah écoute, enchaîne avec le numéro qui était prévu après, c'est Choosing Sides, je crois.
Oui, alors Choosing Sides, c'est les fameux numéros un petit peu anthologiques où on voit pendant l'event ce qui se passe chez de nombreux personnages. Là, c'est un numéro qui est ciblé sur Kate Bishop, J. Jonah Jameson, et on a un fil rouge, c'est l'histoire de Nick Fury. Alors les deux précédents numéros étaient plutôt pas mal. Il y avait toujours, il y avait, enfin tout n'était pas à garder. Hein. C'est souvent le problème hein, sur les petites histoires. Il y en a qui marquent et d'autres qui sont beaucoup plus anecdotiques. Mais par exemple dans le numéro 2, j'avais beaucoup aimé la petite histoire qui était dessinée par Marguerite Sauvage. Et le fil conducteur autour de Nick Fury est assez intéressant. En plus, c'est le premier travail en tant que scénariste pour Declan Shalvey qui illustre également son histoire. Et donc, rien que pour l'histoire de Nick Fury, c'est intéressant de poursuivre la lecture de Choosing Sides, même si ma déception était quand même assez grande dans ce
Oui,
numéro 3, puisque
c'est vrai que payer 4 $ pour 8 pages, c'est cool, quoi.
Surtout que là, ça avance beaucoup trop vite. Et puis, les deux autres histoires sont assez moyennes. Celle sur Kate Bishop est un peu trop bon sentiment. Et celle sur J. Jonah Jameson est un peu bavarde. Et finalement, il y a assez pointless. Donc voilà, lui aussi m'a un petit peu déçu. Je vais lui mettre un petit pass et
Ah
on va
ouais,
dire un
carrément.
check-it pour les. Oui, pour ce numéro, on peut s'en passer. Un check-it, on va dire, pour les gens qui veulent vraiment savoir ce qui se passe dans le fil rouge avec Nick Fury. On a droit quand même à quelques planches qui sont vraiment très belles, dont une double page assez sympa de la part de Chalvet qui tente quelque chose de vraiment chouette, de très cinématographique. Mais voilà, mais je pense qu'en recueil, ça passera beaucoup mieux cette histoire.
Putain, mais 3 of 6, quoi. Putain, 6 épisodes pour Choosing Sides,
Six
quoi.
épisodes. Mais voilà, mais
Foutez-vous de la gueule
c'est
du
comme
monde, quoi.
le 2, tu vois, c'était un bon bail, mais là, ce numéro 3, c'est un pass. Comme quoi, voilà, c'est assez inégal.
Dredd nous dit sur le chat, Kate Bishop est tellement écrite out of character depuis Secret Wars.
Moi, je suis assez d'accord, effectivement. Après, elle était bien écrite quand même dans l'histoire de Jeff Lemire, qui poursuivait la série Onyo Kai, mais en tant que là, dans cette petite histoire, effectivement, c'est assez bidon.
Quand même, Civil War 4, qui tu nous dis, Civil War 2, numéro 4, pardon, tu nous dis ventre mou, Civil War 2, Choosing Sides, tu nous dis un impasse. Ça vend du rêve, hein, Civil War, hein, quand même.
Ah, mais c'est parce que j'ai gardé les bonnes parties pour après. Parce qu'il y a de très très bonnes parties dans Civil War et c'est pour ça que je trouve qu'il y a de quoi faire de très bons tie-in et en plus il joue bien le jeu du tie-in pour de nombreuses séries.
Oui, garde bien les bonnes parties, Bruno, garde-les bien. Je suis désolé, j'ai honte de rigoler de ça en plus, c'est ridicule. Captain America 3, Steve Rogers, enfin Captain America, Steve Rogers, numéro 3, pardon. Numéro suivant chez Marvel, dont on va parler cette semaine. Numéro écrit par Nick Spencer avec des dessins de Rezu Saiz et une colorisation de Rachel Rosenberg. Alors, c'est l'épisode qui explique comment fonctionne la relation. Bon, et c'est plus un secret, hein, les gars, c'était sorti il y a un petit moment. Si vous n'êtes pas au courant, vous êtes dans l'émission VO, tant pis. J'ai envie de dire, il y a un moment, on ne peut plus ne pas spoiler. Steve Rogers a révélé être la Hydra, un gros membre d'Hydra sous couverture, travaillant donc pour le chef d'Hydra, le Red Skull, et on va découvrir comment fonctionne cette relation. On voit le retour du personnage hein, qu'on avait vu dans le premier épisode qui était dans le passé, qui avait aidé sa mère et qui lui tendait une carte de l'Hydra, etc. J'avoue que pour des raisons de temps qui me manquaient, je n'ai pas lu ces 2 pages qui étaient très verbeuses. Elles sont peut-être très intéressantes, mais malheureusement j'ai été obligé de les sauter parce que sinon je n'aurais pas été à l'heure pour cette émission, j'étais déjà pas à l'heure. Enfin surtout, j'aurais pas été à l'heure au travail avant de partir. Hein. C'est surtout ça le problème. Du coup, on va voir comment un Steve Rogers qui a un joli tatouage sur la poitrine, c'est beau.
Temporaire.
Oui, oh bah oui. Là, je veux dire, le mec il se l'est fait au feutre, hein, ça se voit.
Non mais c'est une sorte de petite cérémonie où il prend de l'encre avant et puis il se le fout sur le corps, quoi.
Oui, mais c'est vraiment un joli tatouage. Moi, franchement, si Captain America le garde et va se battre torse poil, moi, franchement, je valide. Je valide.
Grillé!
Non, je suis pas sous couverture, non! C'est même pas vrai. Et on va voir comment s'est terminée la mission dans laquelle. En fait, c'est vraiment. Il explique à Red Skull ce qui s'est passé après la fin du numéro 1. On a eu cet épisode 2 qui nous racontait toute l'histoire, comment ça s'est passé, comment Captain America est devenu du côté d'Hydra, et on avait des pistes, etc. On avait Spencer qui raccrochait les wagons sur pas mal de choses. On avait longuement parlé à l'époque de la sortie de Captain America 2, il y a deux semaines ou un mois.
Ouais.
Un mois.
Ouais, presque un mois.
Ouais. Ça sort tous les mois, celle-ci, hein, on est d'accord, hein.
Ouais.
Putain, j'ai plus la notion du temps en ce moment, c'est terrible. Et du coup, on va découvrir ce qui s'est passé pendant, après qu'il ait jeté Jack Flag du vaisseau, quoi. Et on va voir que la mission a quand même dérapé. Pas mal. Et Red Skull n'est pas content. Il traite quand même Captain America d'incapable. Moi, je serais Captain America, je lui mets une belle branlée, quoi. Mais bon.
Ouais, mais c'est son leader, son suprême leader.
J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre comment ça peut marcher.
Ah ouais, moi, je trouve que ça marche plutôt bien, du coup. C'est, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Nick
Spencer. Tu m'expliques comment il a pu devenir agent infiltré de l'Hydra, devenir à la botte de Red Skull et l'avoir combattu dans les années 40, parce que ça n'a pas été effacé. Hein. Ça fait toujours partie de son passé.
Ah non, mais ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est juste dans la tête de Steve que ça a été modifié. C'est pas dans la réalité. C'est Kobe qui a modifié Steve pour lui, tout ce qu'il a vécu soit différent. Mais pour les autres gens, ça n'a pas changé. Tout ce qui tourne autour de sa vie,
c'est marrant, je l'avais pas compris comme ça.
A été modifié.
Moi, j'avais compris que la réalité avait été modifiée, mais que personne s'en est aperçu, qu'il était toujours sous couverture, en fait. Je me doute bien qu'on reviendra à la réalité de toute façon. Enfin, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est juste que du coup, je me demandais comment ça marchait, comment il avait pu combattre le Red Skull dans les années 40 et être à sa botte maintenant. Puisqu'apparemment, la conversion a eu lieu avant qu'il devienne ce Captain America. En tout cas, il était exposé à l'Hydra avant. C'est là que je comprenais pas trop. Mais enfin bon, peu importe, je m'en fous, l'histoire est bonne, on se laisse porter. Des fois, ça vaut pas trop le coup de réfléchir, je crois.
Oui, après, oui, effectivement, si on cherche la petite bête, je pense qu'on peut trouver. Tant qu'ils n'ont pas vraiment expliqué comment ça marche, effectivement, on peut avoir des petits soucis. Mais voilà, comme tu le dis, c'est plutôt bien rythmé, c'est plutôt bien écrit, il y a de bonnes scènes. Il y a un peu d'humour, hein, c'est Nick Spencer aussi, donc il y a toujours ce côté parfois où. Les vilains, il aime bien leur donner des petits rôles de loser un peu par moment. Mais ça donne droit à des scènes assez cocasses.
Oui, c'est ça. Oui, ils interviennent dans l'île qui est régie par les super-vilains.
Le Bagalia. Ouais, c'est ça. Et ça, moi, ça m'a bien fait marrer quand même. Avec la façon dont ils arrivent à s'en sortir. Alors, c'est très comique, mais en même temps, même les personnages qui sont là, ils se disent « mais ça ne marchera jamais ». Et voilà, là, il y avait un gros côté... C'est du Nick Spencer comédie et ça m'a bien fait marrer.
C'est le genre de scène que tu trouves dans tous les films d'action d'aujourd'hui. Le genre de scène un peu décérébrée qui fonctionne et que tu décides de passer au-dessus parce que sinon ça t'énerve très vite. Quoi. Alors, ça fonctionne, c'est fun, mais c'est juste que ce genre de ressort dans tous les médias, j'en peux plus. J'en peux plus de s'en sortir avec une petite pirouette de blague. Quoi. C'est-à-dire que c'est trop éculé aujourd'hui dans tous les films, dans tous les... Partout, dans toutes les séries, c'est pareil, quoi. Le petit moment comique qui va changer la situation. Ça devient trop popcorn et blockbuster à mon goût. Mais bon, je passe. La scène est fun, ça fonctionne, c'est sympa. C'est juste que j'aimerais bien qu'on ait une vraie idée, qu'on s'en sorte pas avec une pirouette comique. De temps en temps, ce serait fun aussi, pour moi, de pas avoir de fun, justement.
Après, voilà, il alterne quand même les trucs dramatiques. Le sort de Black Flag, c'est assez intéressant.
Je parais très critique comme ça, mais j'ai aimé quand même. Hein, j'ai aimé. C'est juste que, voilà, quitte à être complètement honnête, j'aurais aimé que ça s'en sorte autrement qu'avec une pirouette comique. Même si ça a fait son effet, que c'était cohérent. C'est cohérent, ça marche.
Donc voilà, donc je trouve que c'est un titre qui est assez riche. Voilà, la partie flashback, elle est... Effectivement, c'est peut-être un petit peu verbeux, mais moi ça a bien marché, surtout qu'il y avait un bon parallèle avec la dernière scène.
C'est pas parce que c'était trop verbeux, c'est vraiment parce que je manquais de temps. Le verbeux me dérange pas d'habitude, mais c'est que là j'avais vraiment pas le temps.
Mais en tout cas, voilà, Nick Spencer a une idée, ça continue d'être bien développé, ça marche bien avec le titre Captain America Falcon également, et puis voilà, ce nouveau statut de Captain America qui est voilà, le statut actuel dans l'univers Marvel, vu tout ce qui se passe avec lui dans les autres titres et que son appartenance à d'autres équipes également, c'est intéressant de voir comment ça va se développer. Donc voilà, moi je suis très très content de ce titre. En plus, les dessins de Rezu 16 sont vraiment très très beaux.
Ouais, mais alors par contre, j'avoue que j'ai pas compris la fin.
Ah, bah si, oui, moi j'ai bien aimé, ouais, la fin. On va pas de spoil, mais c'est voilà, ça sera peut-être un peu plus compliqué que ce qu'on pensait. Donc ça m'intéresse aussi. Donc
Ah mais
moi je vais
je dis
mettre
pas que c'est pas
un bon
inintéressant,
bail.
c'est juste que je l'ai pas comprise.
Ouais.
Je vois pas le cliffhanger en fait. Là, j'ai même pas d'idée, j'ai pas compris.
Non, on en parlera hors antenne.
Oui, bien sûr. XP70 qui disait si t'aimes pas le fun, il reste Tyrock.
Il reste ce que... Putain.
Excuse-moi, j'ai eu
Ouais.
un petit souci de
Bravo XP.
prononciation, mais je pensais que ça passerait quand
Bravo
même.
XP.
Du coup, un petit bail, ça reste fun à lire, c'est agréable. J'attends de voir où il va. Même si j'aimerais un peu moins de ressorts comiques pour en guise de Deus Ex Machina en fait, c'est ça. Le comique me plaît en Deus Ex Machina moins parce que c'est trop éculé. Maintenant, bon, ça reste très agréable à lire. Et franchement, vu la quantité de texte, on en a pour son argent aussi. Ce qui
Oui,
joue hein,
c'est
dans
vrai.
l'appréciation hein, néanmoins.
Donc un bail pour moi.
Bye pour moi également. On continue avec Marvel. Bruno qui décidément ne lit que du Marvel.
Mais
Oh.
non, pas que. Mais j'ai lu pas mal de Marvel. Et effectivement.
2 DC, 1 indé, 4 Marvel. Tu lis que du Marvel, c'est tout.
Oui, 5 Marvel même.
Ah oui, 5, oui, bah oui, j'ai compté, j'avais compté Captain America, oui, 5. Oh là là, Bruno. Uncanny Avengers numéro 11. Vends-nous du
Oui,
rêve.
Alors, Uncanny Avengers, c'est écrit par Gary Duggan et dessiné par Pepe Larraz. Donc, on est dans cet arc où Hank Pym est revenu sur Terre. Voilà, il avait disparu après le Rage of Ultron où il avait fusionné avec Ultron. Et bah, son retour sur Terre, on pensait voilà, que tout allait bien. Mais finalement, non, en fait, c'était un plot. Hank Pym a été complètement absorbé par Ultron et il a encore des idées malsaines. Et bah, là, c'est de la grosse baston bien bourrine entre Hank Pym modifié et les Uncanny Avengers. Sous les traits de Pepe Larraz, qui est vraiment un dessinateur que j'aime bien, et puis qui du coup ça amène des scènes vraiment très très spectaculaires. La baston est cool. Il y a une bonne synchronisation entre les différents membres de l'équipe des Uncanny Avengers. Et donc c'est à suivre vraiment comme un bon gros blockbuster ce combat. Sachant que voilà, le statut de Hank Pym actuel ça m'intrigue de voir un peu ce qu'ils vont en faire si. Voilà, si c'est juste Ultron encore qui est vraiment méga méchant et qui veut tuer tout le monde, ou si ça va être un peu plus complexe. Voilà, on est en plein dans un arc. Là, c'est vraiment la grosse baston de cet arc du retour d'Ultron. Ça se termine avec une scène qui est très calquée, on va dire, sur un film récent. Mais voilà, c'était quand même assez plaisant à lire et je suis content qu'il continue de développer les choses autour du personnage de Hank Pym. Et il y a deux, trois petites réflexions de Gary Duggan qui sont assez intéressantes justement sur son statut. Il y a un moment où Hank Pym dit voilà, j'étais dans l'espace, je me suis fait buter par Ultron, personne n'est venu me chercher. Voilà, personne ne m'aime. Il compare à d'autres héros qui disparaissent quelques instants et là tout le monde, tous les Avengers et toutes les équipes de Marvel se mettent à sa recherche.
Bah oui mec, mais il
Là,
y
c'est
avait un
vraiment.
film, on s'en fout de ta gueule, c'est Scott Lang qui prime.
Ouais, mais du coup, voilà, c'était assez malin et de voir le gars bien désabusé qui dit voilà, je vais revenir maintenant, je vais tous vous poney. Mais donc voilà, c'est un bon titre, je lui mets un bon bail, j'aime bien cet arc pour l'instant.
J'avoue l'avoir feuilleté très rapidement, il y a des pages qui sont quand même vraiment jolies. Hein. Bah continue Bruno avec la dernière
Alors,
review de la semaine
les
du
deux
Marvel.
dernières, il me reste
Bah
deux
attends.
Civil War. Oh,
Ah oui mince, excuse-moi, j'avais pas vu la virgule. Ah
Ah
putain,
là
t'as
là.
lu 6 Marvel! 6
Ouais,
Marvel!
6, et en fait, et alors attention, Deus Ex Machina, je me rends compte que j'en ai eu 7, et je vais en rajouter un vite fait.
Oh le
En plus,
mec! Le
mais
mec,
en
et
plus,
après il ose
c'est.
nous dire il lit pas que du Marvel, quoi! Oh le
Mais en
mec,
plus,
cette mauvaise
c'est
foi!
quasi. C'est presque mon coup de cœur, mais j'ai.
Et en plus, il allait oublier, putain, mais t'es ouf!
Je le garde pour la fin.
Allez,
Donc,
enchaîne,
Captain
ouais.
Marvel numéro 7. Là, j'enchaîne avec les trois tie-in qui sont vraiment très bons par rapport à Civil War 2. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Captain Marvel numéro 7, c'est écrit par Christos Gage avec au dessin. Alors, c'est pas du tout Anka comme c'est précisé sur la cover qui a fait une erreur. C'est Marco Faya au dessin. Et bah là, ça se passe en parallèle de Civil War 2. On va découvrir comment Captain Marvel gère justement le fait d'utiliser ou non les pouvoirs de Ulysse. Là, c'est vraiment côté Alpha Flight. C'est un petit peu le procès de Captain Marvel avec tous les membres du gouvernement mondial qui se demandent si elle mérite d'avoir tous les pouvoirs via Ulysse pour pouvoir continuer ses missions. Et c'est plutôt bien foutu. L'idée, c'est de savoir est-ce que le gouvernement mondial va laisser Captain Marvel gérer les pouvoirs d'Ulysse ou non. Et c'est assez logique, du coup, le questionnement que fait Captain Marvel, si oui ou non c'est moral d'utiliser ses pouvoirs. C'est assez touchant aussi par rapport à ce qui était arrivé à Jim Rhodes. Voilà, donc ça permet de bien développer le point de vue de Captain Marvel en parallèle de ce que Iron Man lui pense des pouvoirs d'Ulysse. Là, c'est vraiment de son côté. Elle a ses convictions et ses convictions sont plutôt bien écrites par Christos Gage dans ce numéro. Donc j'ai trouvé ça très plaisant. Bon, graphiquement, assez simple. Il essaye un petit peu, Marc Faya, de reprendre le style de Chris Anka, mais c'est pas renversant. C'est un bon check-it plus pour ce numéro de Captain Marvel.
J'ai toujours pas commencé la série malgré les bonnes critiques, mais j'ai toujours du mal à me dire qu'Alpha Flight est une espèce de force dans l'espace de défense terrienne maintenant. Voilà, que moi qui ai connu Alpha Flight en tant qu'équipe canadienne, point, ça me fait bizarre, quoi. J'arrive pas à me résoudre à me dire
Disons que
qu'Alpha Flight est devenu ça, quoi.
le Canada est un élément important dans la constitution d'Alpha Flight. Puisque dans le Conseil mondial, il y a un des. D'ailleurs, je crois que c'est effectivement le Philippe Beaulieu, c'est un personnage qui est de la réalité, qui est dans les comics et qui représente justement le Canada pour Alpha Flight. Et il fait partie des cinq, enfin des quelques membres principaux de la création d'Alpha Flight.
Tu
Après, je vais
continues avec ouais, New Avengers 14.
New Avengers 14, c'est mon coup de cœur de la semaine
Bon,
parce que j'adore
mais
cette
je croyais que
putain de
c'était celui
série.
d'après, que t'avais pas mis
Ouais,
sur le
mais l'autre est
conducteur.
très bien, mais c'est New Avengers numéro 14. Je suis vraiment à fond là dans le scénar là. C'est super cool. Ça part dans tous les sens. Il y a plein d'intrigues qui se croisent. Le tie-in est parfait avec Civil War 2. Et je me suis pas mal attaché à toute cette équipe de New Avengers. Donc on le rappelle, on a du Hulkling, Wiccan, Songbird, Sunspot, White Tiger, Power Man et compagnie là. Et là, ça va dans tous les sens, quoi. Il y a le Shield qui est en train d'attaquer la base de Roberto da Costa. Il y a justement New Avengers qui ont envoyé une mission pour aller sauver Songbird qui a été enfermé sur un hélicarrier. Donc là, qui c'est qui est parti? Je sais plus. Il y a plusieurs personnages qui sont partis sauver, dont Power Man. C'est super rythmé. En même temps, il y a Reed Richards de l'univers Ultimate qui arrive avec son équipe de super vilains pour essayer de défoncer Da Costa aussi d'un autre côté. C'est dessiné par. Alors attendez que je retrouve les dessins. C'est dessiné par Paco Medina aussi, donc c'est vraiment très beau. Il y a plein de références par rapport à la continuité avec Roberto Da Costa qui parle de son histoire avec les New Mutants, de ses entraînements avec Xavier. J'ai été super content de voir arriver un personnage à la fin du numéro. J'ai fait ah oh, putain, c'est bien cool et tout. Et voilà, c'est du bon comics de super-héros avec plein de choses qui se passent, plein de retournements de situation, pas mal d'action et en plus c'est bien illustré.
Putain, tu me donnes envie
Donc,
de le lire, enfoiré.
voilà, donc c'est du très bon Harley Wing. Moi j'aime beaucoup Harley Wing, ce qu'il fait en ce moment. Et donc je lui mets un bon gros bail à ce Civil War 2 New Avengers
Alors,
14.
tu as interdiction de me donner envie d'aller lire des séries Marvel. J'ai plus le temps, Bruno, j'ai plus le temps.
Oui, je sais, après c'est peut-être que moi, mais franchement j'adore cette série.
Non, mais
Donc.
le fait qu'il se passe plein de choses me donne envie, quoi. Je me dis,
Bah au moins
au
voilà,
moins,
il y a
voilà, il se
des
passe des
comics
trucs,
où.
quoi. Mais
Bah
j'en
là
veux
oui.
à Harley Wing de cette idée du American Kaiju, quoi. Ça, je passe
Ah
pas.
ouais, bah
Je
ça
passe pas.
reviendra peut-être plus tard,
Oh
mais.
bah pas peut-être, hein, Bruno, on a vu plein de choses, plein
Oui,
de teasers.
on a vu des teasers, et puis cette série New Avengers arrive sur sa fin, puisque après ça va enchaîner sur les. US Avengers. Voilà. Mais bon, on sent qu'Harley Wing s'éclate et il aime bien jouer avec tout ce qui est les éléments de continuité. C'est plutôt sympa à chaque fois de lire ça. Et
Et
donc
la chronique mystère, que je
la
ne sais
chronique
pas.
mystère. Oui, tout à fait. C'était un titre. C'est le premier titre que j'ai lu en plus cette semaine. C'est pour ça que j'avais oublié, parce que je mourais d'envie de le lire. C'était le nouveau Totally Awesome Hulk, qui est écrit par Greg Pak avec au dessin c'est Del Mundo, qui va faire
Mike.
cet arc qui est tie-in à Civil War 2. Et je voulais le lire, pourquoi? Parce que bah, à la fin de Civil War 2 numéro 3, quand Bruce Banner s'est fait tuer, j'avais des questions. Parce que dans la série Totally Awesome Hulk, on expliquait comment Banner avait perdu les pouvoirs de Hulk et comment Amadeus Cho était devenu Hulk. Et je trouvais qu'il y avait une petite incohérence et je voulais voir comment Greg Pak allait essayer d'expliquer ça. Et alors, on n'a pas encore toutes les explications pour l'instant, mais il prend le problème à ras-le-corps et ça commence le comics avec un Amadeus Cho qui est profondément abattu d'avoir appris la mort de Bruce Banner, qui comprend pas parce qu'il pensait avoir soigné Bruce et voilà, donc il est complètement dépité de ce qui s'est passé. Il n'a pas laissé la colère s'emparer de lui pour tout casser, mais voilà, c'est tu le vois qui est dans son lit en train de limite de chialer. Il y a sa sœur qui s'occupe de lui. Et il va recevoir la visite de Captain Marvel, bien sûr, qui va arriver avec les personnes d'Alpha Flight, et qui vient pour vérifier qu'il va pas péter un plomb. Donc encore un peu la même chose que dans Civil War 2 numéro 3, c'est est-ce que c'est une bonne idée de venir avec tant de militaires pour s'en prendre à quelqu'un qui lui peut se transformer en Hulk, hein, puisqu'on l'a vu il y a pas longtemps. Et là, en fait, on a une confrontation au niveau des dialogues qui est vraiment bien foutue. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était vraiment bien écrit, c'était assez touchant. Le personnage d'Amadeus Cho est très intéressant, tel qu'il est écrit actuellement dans la série Totally Awesome Hulk. Et voilà, donc en plus c'est magnifique, les dessins de Del Mundo sont sublimes. Le comics, après, il y a une sorte de petite ellipse. Et là, on part sur une bonne grosse scène d'action qui fait flipper. Tu te dis, mince, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et ça se termine avec
8 mois plus tard, petite
Non,
ellipse.
il n'y a pas 8 mois plus tard, c'est quelques jours après. Et là, j'ai bien aimé ce que fait Greg Pak et tout. Non, c'est vraiment, vraiment cool. Il me tarde de voir la suite, comment il va continuer de développer cette histoire. Et je sens que pour Hawkeye, ça va peut-être pas très bien se passer. Donc, un bon gros bail pour ce Totally Awesome Hulk avec de superbes dessins aussi de Del Mundo. Donc,
Bruno, il annonçait
donc
sur les titres d'octobre, n'y crois pas.
mais oui, mais je sais, mais bon, je sais.
Donc ça va pas bien se passer pour 2 pages, et puis après ça ira mieux.
Ouais, mais bon, mais moi je me laisse porter par
Ouais,
l'histoire, par. C'est pas
mais ça
grave si
gâche
je me
tout,
suis
quoi.
fait
Franchement, ça gâche tout
certains
quand
trucs.
même. Quand tu penses avoir un minimum d'enjeu pour un personnage important, surtout que dans un event comme ça, normalement, chaque personnage devrait pouvoir mourir ou disparaître. Et on devrait pouvoir y croire. Mais là, on a déjà les titres d'octobre de solliciter et on sait que Hawkeye est sur une des covers principales, quoi. Du coup, tu peux absolument pas craindre quoi que ce soit pour ce personnage.
Ouais, mais parfois,
C'est
tu sais,
dérangeant. Moi, ça me dérange.
une bonne branlée, ça peut avoir autant de sens qu'une mort, quoi. Donc, on a déjà eu ça avec un Tony Stark qui s'est bien fait défoncer quand même après Civil War.
Ouais, mais tu vois, je trouve que ça fait perdre en magie, du coup.
Mais oui, bah après, c'est le problème de l'extra communication à outrance et en excès de Marvel. Mais bon. Ça m'a pas gâché ma lecture quand même. Donc voilà, donc je termine avec tous ces tie-ins là que j'ai beaucoup aimé et n'en déplaise à je crois que c'est Jonath qui a trouvé tous les tie-ins Civil War 2 comme étant de la grosse chiasse. Moi j'aime beaucoup ces tie-ins en ce moment. Pas tous, mais certains sont très bien.
Il a même dit que c'était de la chiasse en cubi.
Oui, bah je me doute bien, mais
Ce qui
bon
fait
après
donc
ça c'est peut-être les
5 litres de chiasse quand même,
c'est
d'un coup.
Peut-être l'effet des férias qui a une voilà des conséquences sur ce pauvre Jonath, hein. Voilà. Mais bon, c'est pas grave.
Je vais pas parler des férias parce que je sens que je vais vite m'énerver, quoi. Ah, je suis tombé sur une interview. J'étais dans une pause à mon boulot, donc je suis allé dans ma bagnole pour partir. Pour aller boire un café ailleurs. Et je suis tombé sur une interview d'un pauvre journaliste qui était en direct, qui est en train d'essayer d'interroger les gens vis-à-vis de la feria en leur disant bah, enfin, comment vous vous sentez dans ce climat? Oui, les questions étaient un peu raclure de chiottes, en même temps c'est des journalistes quoi, hein, qui font dans le sensationnel. Et là, on a un espèce de jeune petit connard qui se permet de dire oui, vos questions me dérangent, nous on est là pour s'amuser, pour boire, pour fumer, pour faire la fête. C'est bien, avoue à tout le monde dans un média de grande écoute que tu es en train de te droguer, jeune inconscient, c'est illégal, hein, c'est interdit par la loi, mais bref, c'est pas grave. En disant, vos questions me dérangent, vous faites dans le misérabilisme, de toute façon on est juste là pour s'amuser, le reste on s'en fout, cassez-vous, vous nous pourrissez la fête, quoi. Jeune petit con. Jeune petite merde. Si tu te prenais un ou deux coups de batte sur la gueule, tu la fermerais peut-être un peu, quoi. C'est juste, ça m'a insupporté, quoi.
C'est mal exprimé, mais en même temps, je comprends ce qu'il
veut dire. Non, il s'est pas mal exprimé. Il s'exprimait très bien, et ouais. Voilà. C'était pas juste un loser qui a complètement raté sa vie, et c'est justement
après,
là.
On peut quand même continuer à s'amuser.
C'est la façon de le dire.
Malgré tout.
Non, mais oui, bien sûr. Ah, ben, ça, je partage totalement cette idée. C'est juste qu'il y a la façon de le dire. Là, en disant, mec, tu nous déranges, on est là pour s'éclater, de toute façon, on est là pour se mettre minable. Parce que grosso modo, c'est ce qu'il disait, quoi. On est là pour se mettre minable.
Mais je te permets pas dérangeant. De parler comme ça de Jonathan. Hein. Je sais que cette interview, il l'a fait et il avait tout à fait réfléchi à ce qu'il allait dire.
Je trouvais ça assez dérangeant d'interrompre un gars qui est en train de faire son interview et qui est en direct, en disant de toute façon vos questions me dérangent, en sous-entendant que le mec est une sous-merde. Petit peu, voilà, je sais pas. Jeune petit con, déjà va à l'école et après on reparle. Voilà. C'est juste ça, ça m'a saoulé, quoi. Ça m'a saoulé. Ce mec-là, je l'avais devant moi, je lui mettais une grande tarte dans sa gueule. Je lui aurais appris le respect un minimum, quoi.
Tu pourrais utiliser ton cadeau d'anniversaire.
Ouais. Non, mais c'est juste que voilà, t'as le droit de pas vouloir répondre aux questions. À ce moment-là, tu dis non, quoi. Le mec, il te met pas le micro dans la bouche en te disant « Réponds, sinon je tue ta famille !» Ça te plaît pas, tu te casses, quoi. Laisse-le faire son job. Toi, t'as envie de t'amuser. Pourquoi tu prends ton temps pour répondre à une interview si t'as envie de t'amuser? Casse-toi. Va te mettre minable ailleurs. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident, quoi. Il y a des choses que je comprends pas. Vraiment, il y a des choses qui me dépassent. Mais de beaucoup, quoi. Je sais pas. Là, je comprends plus. Vraiment, je comprends plus. Bref, les TP Marvel, quand même. Passons-y. Guardians of the Galaxy classique TPB volume 1 qui s'appelle In Year 3000, qui est donc vraiment les Gardiens de la Galaxie des années 3000, avec Guardians of the Galaxy des années de la série des années 90, épisode 30 à 39. Ainsi que l'annual numéro 3 et du matériel provenant de Marvel Comics Presents numéro 134. Pourquoi on publie Guardians of the Galaxy 30 à 39 dans un TPB qui s'appelle Guardians of the Galaxy classique TPB volume 1? Là encore, ça me dépasse. C'est que même chez Marvel, les volumes 1 TPB se vendent mieux que le reste. On fait la relaunch des TPB maintenant. $35. Nous avons également Machine Man par Kirby Editco Complete Collection avec la série de 1978 Machine Man, 19 épisodes, ainsi que 3 épisodes de Hulk dans lesquels Machine Man était présent, les épisodes 235 à 237, ça vaut $40. C'est du bon gros vieux, c'est du Kirby, c'est du Ditko. Si vous ne connaissez pas et que vous avez envie de découvrir ce personnage qui en impose, qui a une certaine aura, franchement, foncez dessus. C'est pas évident en plus à se procurer. Donc voilà.
444 pages, c'est pas très cher.
Ah, faut aimer le style ancien, quoi, 78, hein, ouais. La série. Mais voilà, si vous êtes curieux et friand de ce genre de vieux produits, vraiment foncez dessus. Continuons avec la sortie de quelque chose qui est déjà sorti en VF, je crois. Spider-Man 2099, 4e TP avec les épisodes 6 à 10 de la série de 2015. Ouais. Ça va sortir en VF bientôt, peut-être.
Non, mais ça va sortir dans les kiosques, ouais, tout à fait.
Honnêtement, je suis perdu. À faire trop de relaunch, je ne sais plus quelle série est laquelle. Là, je commence à être perdu. Ça vaut $16.
Oui, c'est celle du
ouais, la dernière, je pense. Marvel. La nouvelle, ouais. Ouais, ça va être ça. Weird World, premier TP avec les 6 épisodes de cette série qui s'est arrêtée. Écrite par Sam Humphries et avec des dessins de Mike Del Mundo au prix de $18. Je ne sais pas si Panini a prévu de la sortir, celle-ci.
Sans doute, mais j'ai pas d'infos encore, je crois, sur ce titre.
Et enfin, nous terminerons avec un autre Complete Collection, X-23 Complete Collection.
C'est bien ça.
Avec la mini-série X-23 de 2005, suivie de X-23 Target X, mini-série complète également. Le one-shot Captain Universe X-23, le one-shot de 2010 qui s'appelle X-23 aussi, la mini-série en 3 de 2010 et du matériel X-Men to Serve and Protect 2002, numéro 2, pardon.
Ouais, beaucoup de choses qui étaient plus trop disponibles en TP, donc une grosse collection à 400, de 450 pages pour 35$, c'est pas mal.
Voilà, si vous êtes fan du personnage, que vous avez envie de découvrir ses origines, bah, foncez dessus, là c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de matos pour un prix relativement correct. Hein. Et voilà pour ces TPB de Marvel pour cette semaine. Et voilà pour cette semaine de review pour ce 306e Comics Weekly qui, je l'espère, n'aura pas de problème d'enregistrement.
On l'espère, on croise les doigts.
De toute façon, j'ai un enregistrement de secours cette fois-ci que j'ai fait, qui, j'espère, ne va pas du coup surcharger trop mon PC à faire deux enregistrements en même temps. Mais voilà, je prends le risque pour essayer de pouvoir proposer quelque chose de propre à l'écoute. Ce serait bien. Parce que j'ai quand même très honte de l'épisode de la semaine dernière. Même si c'est pas réellement de mon fait, j'en suis vraiment désolé.
Oui, non, tu peux rien.
Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Comics Weekly. On débat encore sur la date pour le San Diego Comic Con, soit demain, soit lundi. On est en train de gérer ça. Désolé, on navigue un peu à vue. C'est un peu le problème des vacances et du taf, etc. Un peu du mal à tous se caler, mais voilà, vous aurez ce San Diego Comic Con spécial. Avec le retour sur toutes les annonces, il faut aussi qu'on puisse avoir le temps de les digérer un petit peu, parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'annoncer.
Beaucoup de choses, ouais.
Beaucoup, beaucoup de choses, trop de choses peut-être. On aura le temps d'en débattre lors de ce spécial. Et puis, le Comic City arrive, il arrive bientôt sur, en replay, hein. Il a été diffusé la semaine dernière, enfin, enregistré la semaine dernière en direct. Il arrive en replay, là, je vais essayer de le mettre ce week-end. Dès que j'ai un petit moment pour arriver à monter ça, parce que j'aimerais faire aussi autre chose que juste bosser, en fait, ce serait pas mal. Et voilà. Et puis comme d'habitude, hein, Facebook, Twitter, le site quand il marche pour récupérer les épisodes. Putain, on a vraiment pas de bol avec les malwares quand même, hein. Pourtant, on est protégé, ouais. Bordel de couilles. Hein.
Sur iTunes, ça marche en ce moment.
Ouais, non, mais c'est juste que le site est inaccessible, quoi. C'est un peu chiant.
Il était accessible, mais avec une mise en page assez ratée. Là, il est à nouveau accessible avec une mise en page bizarre, mais ça devrait revenir dans la normale bientôt.
Ouais, mais putain, on se prend des attaques de tous les côtés, quoi. C'est incompréhensible. Mmh. Putain, on est quand même pourtant protégé, quoi. C'est ça que je comprends pas. Bref, comme d'habitude, les mails aussi, hein, si vous souhaitez nous envoyer des mails, l'adresse c'est podcast@comiccity.fr, sinon vous avez le formulaire de contact sur le site qui vous permet de nous envoyer automatiquement un mail. Et je vous rappelle, hein, les questions de l'été, le grand débat sur quel est l'arc ou le run le plus marquant pour vous, le plus important, et essayez de lire cet été encore, comme on avait fait les années précédentes, comme Stéphane nous avait concocté les années précédentes, le meilleur arc selon vous. Voilà, donc chaque réponse compte, et n'oubliez pas que vous pouvez voter aux questions des semaines précédentes, tant que nous sommes encore dans les phases d'élimination, puisque les réponses seront prises en compte à la fin de ces 6 semaines d'élimination. Et bien sur ce, nous nous retrouvons la semaine prochaine. Bruno, je te remercie de m'avoir accompagné pendant c'est presque 2 heures.
Ouais, voilà, sympathique, fin de soirée, comme ça, on termine bien.
Et puis, comme d'habitude, hein, pour nos amis du direct, les petits bonus qui arrivent, dans quelques petites minutes, juste après le générique final et le temps de relancer quelque chose.
La compilation complète de Miss Roussos.
Oh putain, la violence, quoi. La violence. On se retrouve donc la semaine prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien et surveillez Facebook, hein, pour la date du spécial SDCC.
Ouais. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao. And you're heading up to Wreck and Break.